Bien sûr. La séance est ouverte. Monsieur Michel Dufraisse a donné pouvoir à monsieur Patrick Blanchot, madame Jussiani et madame Debord, Franck Pilser à Gilbert Thiel, Véronique Ravon à Pierre Boileau et Lucienne Redercher à madame Malika Dati, monsieur Guy Alba à madame Chénès Kirouni, madame Christine Simonet à Michel Breuil, madame Nadia Sutter à madame Inde Magada. Un peu de silence, s'il vous plaît. Merci. Madame Creusot, jusqu'à son arrivée et après son départ, je n'ai pas bien compris ce qu'il nous restait comme à monsieur Bertrand Masson. Henri Bégor, jusqu'à son arrivée, mais tout le monde la situe, à Serge Bouly. Laurent Garcia à Didier Sartelet, jusqu'à son arrivée, mais il est déjà là. Monsieur Romain Pironnet, jusqu'à son arrivée à monsieur François Werner. Et trois de nos collègues qui ont des engagements absolument déterminants, messieurs Berlemont, Dap et Sadoun, en fonction de la durée, madame Sadoun, de nos travaux, prendront congé de nous avec tact et élégance. Je vous remercie. Je me suis permis de vous saisir toutes et tous par un courrier sur les présences en conseil métropolitain. Nous avons beaucoup de responsabilités, les uns et les autres, mais courir après des seuils de présence, etc., ça finit par poser un problème à la fois d'amitié, un problème de déontologie et un problème, je dirais, juridico-politique. Donc, je vous ai clairement informé de la nécessité d'être, sauf exception, présent en séance. Et si on revenait à une situation hantée, je serais obligé, comme le maire de Nancy, de rendre publiques les présences. Oui, parce que vous êtes des représentants du peuple. Alors, je voudrais saluer madame Chénès Kirouni comme présidente du groupe qui succède à monsieur le maire de Tomblaine. J'ai dit dans une séance antérieure au maire de Tomblaine ce que je pensais et j'accueille avec à la fois courtoisie et la légitimité qui lui sied maintenant madame Kirouni pour une durée partagée, me semble-t-il, jusqu'à la fin de la mandature avec le maire de Vendeuvre. C'est bien ça. Madame la Présidente, j'aurai le plaisir de vous recevoir. Je voudrais aussi dire que les relations au niveau du fonctionnement de l'Assemblée se gèrent la plupart du temps entre les deux présidents de groupe. C'est ce que faisait notre ami Serge Bouly avec monsieur le maire de Tomblaine. Et par conséquent, sans plus tarder, je suppose que vous m'avez demandé un temps de parole. C'est un temps de parole de 5 minutes que je vous accorde volontiers.
Merci, monsieur le Président, chers collègues. C'est avec honneur et fierté que je m'exprime aujourd'hui en tant que nouvelle présidente de notre groupe La Gauche du Grand Nancy. Je remercie mes collègues pour leur confiance et leur adhésion majoritaire à notre proposition de présidence alternée avec Stéphane Ablot, maire de Vendeuvre et vice-président à la métropole du Grand Nancy. Il prendra ainsi le relais à compter de septembre 2019. Nous avons souhaité privilégier un choix partagé par le plus grand nombre des élus de notre groupe plutôt que d'ouvrir une bataille politique sans issue collective. J'ai accepté de relever ce défi dans un souci de responsabilité et dans le respect des différentes sensibilités qui composent notre groupe. La tâche est immense, mais enthousiasmante. Je salue et remercie Hervé Féron, qui a exercé ses responsabilités de président dans un contexte difficile. Face à la défiance des citoyens vis-à-vis de la politique et des élus, l'exercice de notre action se complique considérablement. Il ne suffit plus de voter majoritairement un projet dans une assemblée pour emporter l'adhésion des habitants. Cette situation nous oblige à réinventer de nouvelles pratiques, de décisions et à avancer plus fortement dans la participation et la consultation des citoyens dans la mise en œuvre des projets du territoire. Dans ce domaine, Monsieur le Président, la métropole a encore un effort important à faire. Notre Assemblée ne peut pas être uniquement une chambre d'enregistrement des délibérations. Les débats, les votes sont importants. Le Conseil restant un lieu où s'exerce la démocratie, même imparfaitement. Or, il arrive régulièrement que des dossiers structurants fassent l'objet d'une communication presse avant même que la décision n'ait été votée en Conseil. Ainsi, pourquoi lancer la marque et la démarche attractivité avant nos débats de ce jour ? De même, il est regrettable d'apprendre par la presse le changement de délégataire pour le réseau de transport en commun, alors même qu'aucune décision n'a été prise dans le cadre de la procédure de DSP. Les commissions ou les conférences des maires ne se substituent pas au Conseil. Notre métropole mène des politiques fondamentales pour notre territoire et ses habitants. Déplacement, attractivité économique, logement, gestion de l'eau, des déchets, cohésion sociale. Nous nous devons, dans la méthode, et même si nous pouvons être en désaccord sur certains choix, respecter les temps des débats et des décisions. Les élus de notre groupe, la gauche du Grand Nancy, souhaitent jouer leur rôle à part entière. Une opposition constructive et exigeante. Une opposition qui propose et qui défend un projet alternatif, ambitieux, pour répondre aux défis de notre territoire et de notre pays. Qui souhaite être utile et œuvrer pour l'intérêt de notre territoire et de ses habitants. Je pense bien évidemment aux questions cruciales liées au changement climatique et à la transition écologique, aux réponses à apporter pour réduire les fractures territoriales et renforcer la cohésion sociale, pour relancer une attractivité économique, culturelle, afin d'éviter que la métropole du Grand Nancy décroche et perde sa place et son rayonnement dans la nouvelle région Grand Est. Nous ne nous réjouissons pas des échecs et nous avons conscience que les choses ne sont pas si simples. Mais il me semble primordial que le débat démocratique puisse avoir lieu, que nous puissions faire part de notre vision en toute sérénité et dans le respect des positions de chacun. Ce qui n'est pas toujours le cas et c'est la condition essentielle qui nous permettra, me semble-t-il, de renouer la confiance avec nos concitoyens. C'est dans ce sens, en tant que nouvelle présidente et avec mon groupe, que nous souhaitons travailler avec vous, Monsieur le Président de la Métropole, Monsieur le Président du groupe majoritaire et avec vous tous, chers collègues, dans un esprit ouvert et constructif, avec détermination et conviction. Je vous remercie.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président.
Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, ce n'est certainement pas une réponse. C'est juste pour souhaiter à Madame Khirouni la bienvenue dans le club très fermé des présidents de groupe. J'ai bien noté ce que vous avez dit au sens intellectuel du terme, comme par le biais de mon crayon. Je voudrais dire quand même quelque chose qui me semble que le débat existe et à plusieurs niveaux dans cette Assemblée. Et vous savez bien que ici, en Conseil métropolitain, le processus décisionnel ne résulte que d'un travail toujours fait à l'amont, que ce soit dans des groupes de travail, que ce soit en commission, avant de passer ici. Moi, je me réjouis du fait que la gauche, naturellement, veut se sentir utile aux intérêts des habitants. C'est la moindre des choses, je dirais, pour tous, quand on est élu du peuple et représentant du peuple, sans que le mot « peuple » ne soit péjoratif, naturellement, mais pris au sens premier du terme, et de manière à dire que nous sommes d'abord les représentants de l'ensemble des grands Nancéens, des 256 000 et quelques, et que nous, si nous essayons de tirer un peu tous dans le même sens, avec le débat nécessaire, eh bien, tout sera bien, j'allais dire, pour le meilleur des mondes métropolitains. Donc, je prends avec grand intérêt vos paroles. Il se trouve que je serai votre interlocuteur un petit peu privilégié pour définir peut-être des choses et le débat, les organisations des débats ici, notamment quand il y a des questions majeures et des demandes de temps de parole pour le rapporteur, pour le président de groupe, pardon, qui est toujours un peu plus long que les 5 minutes qui sont habituellement dévolues aux interventions de chacun. Nous y veillerons ensemble, si vous le voulez bien, et puis avoir une présidente me changera un petit peu des rapports avec M. Ferron, qui était, sur le plan en tout cas de nos organisations, très bon, et il n'est pas là, mais je me félicite des quelques rapports qu'on a pu avoir ensemble. Voilà, bon travail à vous.
Merci Madame et Monsieur le Président. Sur les problèmes de marque, il vous sera répondu tout à l'heure, puisqu'il y a une délibération, et je pense que l'enchaînement des délibérations est une réalité que personne ne peut nier et se prévaloir de l'absence de délibération préalable. En ce qui concerne l'information sur les transports, elle n'est pas de notre fait. Elle est du fait d'un des compétiteurs qui a cru devoir informer largement, et la presse et un certain nombre de responsables dans le domaine des transports, mais je vous indique que la procédure concernant le déroulement de cet appel dans le cadre d'une délégation de service public, c'est-à-dire très particulière, c'est pas simplement une commission banale d'appel d'offres, c'est une délégation de service public avec ses règles de discrétion obligée et avec, je dirais, des moments toujours délicats de préparation de contrat. Donc nous en sommes là, et tout ce qui, j'ose pas dire, afflue ou conflue dans les journaux n'est ni le fait du président de la métropole, ni le fait d'aucun organe de la métropole, et je vous invite les uns et les autres sur ce sujet à suivre les procédures qui sont liées à cette spécificité d'une délégation de service public. Et l'Assemblée, en son temps, et après le travail qui n'est pas terminé, pourra à ce moment-là largement débattre de ce sujet. Mais c'est partout souvent pareil. On va se plaindre dans les journaux, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on veut. Mais c'est la responsabilité et l'éthique de chacun. Vous avez sur vos tables un projet de délibération qui n'a pas, bien sûr, respecté, je dirais, l'ordonnancement classique. Je souhaitais vous inviter à vous associer aux efforts de solidarité avec nos compatriotes du département de l'Aube et de vous proposer, par l'intermédiaire de la Fondation de France, de disposer pour elle d'une somme de 20 000 euros représentant l'effort immédiat de solidarité de notre métropole en direction de nos concitoyens lourdement frappés dans leur territoire, dans leur métier, dans leur maison et dans leur chair. Y a-t-il des oppositions ? Il n'y en a pas, je vous en remercie. C'est donc décidé à l'unanimité. Madame Kiroudi, je ne reviendrai pas sur... Mais je vous invite, si vous ne l'avez déjà fait, à prendre connaissance de manière peut-être plus intime du pacte de gouvernance qui régit nos rapports à l'intérieur du Conseil métropolitain. Je pense que vous l'avez, puisqu'il a été voté à l'unanimité, je le rappelle, au moment de la création de la métropole. Nous avons une première délibération qui est importante. C'est une délibération qui enclenche le processus, je dirais, de développement, d'approfondissement à partir du projet métropolitain. Projet métropolitain qui a été validé lors de notre dernière séance et qui est en quelque sorte notre ligne de force et ligne, je dirais, puisqu'il y a eu des abstentions, mais il n'y a pas eu d'opposition, ce qui est une forme de convergence très intéressante. Sur ce que nous appelons dorénavant les chemins métropolitains, c'est-à-dire qu'à partir du projet métropolitain, qui est un projet de société, qui a été fait, et nous sommes certainement parmi les premiers dans le cadre des métropoles en France, à faire projet non seulement de territoire, au sens, je dirais, territorial du terme, mais aussi au sens de la société métropolitaine. D'abord, je voudrais vous remercier, Monsieur le Directeur général des services, et à travers vous, l'ensemble des collaborateurs de la métropole, pour l'extraordinaire effort de travail, de proposition, de suggestion qui a été fait avec l'ensemble des collaborateurs de la métropole. Je pense que c'est une bonne pratique et je pense que ça participe, je dirais, de la convergence des points de vue à l'intérieur de la métropole. Je voudrais aussi saluer tous les espaces de la société métropolitaine, que ce soit le monde de l'université, de la recherche, le monde économique, le monde associatif, l'ensemble des responsables sociaux, sociétaux qui se sont associés à notre débat pour arriver à un projet métropolitain. Il nous faut maintenant continuer, ne pas nous arrêter. J'ai la faiblesse de penser que ce que vous avez décidé dans cette Assemblée, ce que nous allons poursuivre comme études et comme méthode de travail, nous donneront à la fois une méthode, mais aussi des orientations qui dépassent les échéances des mandats, en tout cas du prochain mandat. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui sur une vraie métropole avec ses caractéristiques, même si nous n'avons pas, je dirais, une masse de population aussi importante que d'autres, mais nous sommes dans les 20 métropoles françaises et 20 métropoles qui aujourd'hui se mettent progressivement avec les mêmes méthodes que nous à réfléchir sur la société métropolitaine. Je pense aussi que, je l'ai annoncé à mes collègues, mais je le répète ici en assemblée plénière, nous devons nous interroger sur les formes nouvelles d'organisation des communes. On parle beaucoup de communes nouvelles. On parle aussi de, je dirais, d'élargissement. Je ne parle pas de périmètre. Je parle d'élargissement de l'influence, de l'organisation des sphères métropolitaines. Sur ces sujets, il faut, le moment est venu d'en parler et de regarder la loi, de regarder les lois, de se doter des formes d'expertise indispensables pour bien comprendre les hypothèses possibles, sans pour autant raconter n'importe quoi et faire, je dirais, des communications ou partisanes ou infondées. On est donc bien là dans une période tout à fait nouvelle. Ça correspond d'ailleurs à l'accélération du fonctionnement de la société, la numérisation, la rapidité. Et on est bien dans l'invention avec nos partenaires des territoires. Et moi, je me réjouis de voir l'organisation ministérielle, un grand ministère des territoires. Tout ça est maintenant clarifié. Il y a un ministère des territoires. Moi, vous connaissez mon combat national sur cette notion de territoire et pas de collectivité, simplement, qui est plutôt péjoratif. Et d'autre part, des réorganisations ministérielles et de voir la Direction générale des collectivités territoriales, la fameuse DGCL, bien connue des responsables de collectivités, être sous l'autorité du ministère des territoires. C'est une évolution majeure dans l'organisation du fonctionnement de la République. Donc, nous sommes dans des périodes d'accélération, de mutation. Il faut regarder les choses. Il faut faire aussi, le moment est venu de faire le bilan du fonctionnement avec nos partenaires territoriaux, que ce soit le département ou la région Grand Est. Nous attendons la possibilité, je le dis, pour nos conseillers et nos vice-présidents de conseil, la signature qu'on attend de la région Grand Est avec la métropole. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est sur une culture, des regards nouveaux, je dirais un approfondissement, je dirais, des valeurs et des méthodes de travail. Et je pense qu'à travers les chemins métropolitains, nous sommes sur cette identification. Les chemins métropolitains, j'ai demandé à un certain nombre d'entre vous qui ont travaillé sur ces questions, et on en débattra au prochain conseil métropolitain. Je pense qu'il y a l'ordre de 4 ou 5 thèmes possibles, appelés chemins métropolitains. Et à partir de ces chemins métropolitains, il y aura des ateliers, il y aura des documents, il y aura des cahiers qui correspondront à ces dossiers pour que nous puissions affiner nos propositions dans le cadre de cet approfondissement du projet métropolitain. Nous avons, je dirais, choisi un premier thème, une première déclinaison en matière de santé et de bien-être. Tout ça apparaît. La santé aujourd'hui, il y a des perspectives législatives nouvelles qui sont intéressantes. Il y a aujourd'hui de gros problèmes dans les secteurs de santé. Et ce qui me frappe le plus, c'est qu'il n'y a aujourd'hui aucune assemblée démocratique qui n'ait, par les textes, habilitée à se prononcer sur l'évolution, l'organisation des systèmes de santé pour nos concitoyens. Donc, le meilleur moyen, quand ça n'existe pas, c'est de créer ex nihilo. C'est ce que nous allons faire. Nous allons donner des points de vue à l'administration du ministère de la Santé, à nos concitoyens, sur ce que nous pensons. Et je souhaiterais, moi, personnellement, que l'ensemble des collectivités s'emparent de ce sujet de santé et de bien-être, parce que les sujets sont trop importants, prioritaire pour nos concitoyens, pour que l'absence de débat démocratique dans les territoires autour de l'organisation de la santé puisse être envisagée avec vigueur, avec clairvoyance et avec vigilance. Donc, sur cette première déclinaison sur la santé et le bien-être, ce sont des groupes de travail qui vont se constituer. Ce sont la mise en œuvre d'une stratégie d'attractivité va de pair aussi avec cet aspect des choses. Nous sommes sur une dynamique de construction et nous allons, sur ces 4 ou 5 chemins métropolitains, approfondir notre travail. La rédaction de cahiers métropolitains dans le cadre d'ateliers des chemins métropolitains prolongera cette démarche d'enrichissement et de déclinaison de ces chemins. La première thématique, je viens d'en parler, mais il y en a plusieurs derrière dont on peut imaginer la légitimité. Le développement durable et les transitions, notamment celles relatives à l'environnement, aux mobilités, à l'énergie. L'innovation autour des démonstrateurs identifiés dans le projet métropolitain, autour des matériaux, du numérique apprivoisé, de la forêt, et puis au niveau des territoires, à travers le PLUI et les territoires à enjeux. Cette démarche se déploiera également en 2019 dans le contexte de la célébration du 60e anniversaire de notre intercommunalité. Nous aurons à ce moment-là une série de manifestations avec le soutien d'acteurs nationaux, puisque le Grand Nancy s'est engagé très tôt dans l'intercommunalité, district, très grand district, dès 1959, plus grand d'ailleurs que le périmètre de la métropole d'aujourd'hui, communauté urbaine en 1996, et enfin métropole de plein exercice en 2016. Vous voyez que cette ouverture sur ces chemins métropolitains, c'est aussi la dynamique, c'est la connaissance, l'appréciation de ce que nous avons fait, et c'est aussi notre rapidité d'adaptation par rapport à ce qui évolue. Donc, sur santé et bien-être, je pense qu'il nous faut aller vers un plan métropolitain global de santé et de bien-être. Je pense aussi qu'il nous faut une vision large des déterminants de la santé et du bien-être, et puis un travail approfondi avec l'ensemble des professionnels qu'il faut mobiliser. Notre contribution de la recherche et de l'innovation à une offre de soins de pointe. J'ai demandé au président du conseil de surveillance du CHU de nous faire un point sur l'état de la situation du CHU. Il n'y a aucune raison que sur des débats d'une telle acuité, il n'y ait pas une assemblée qui s'empare de ce sujet et qui donne un point de vue et un sentiment profond, parce qu'il s'agit de notre approche très forte des choses et de l'engagement d'un grand chantier qui est celui de l'évolution du CHU, de l'absence de réponse de l'État aujourd'hui, des pérégrinations, je dirais, du ministère de la Santé. Et nous avons besoin, le CHU est le premier employeur de notre agglomération, nous ne pouvons pas rester dans cette incertitude plus longtemps. Vous voyez que nous pouvons, sur toutes ces approches en ce qui concerne le bien-être aussi citoyen, les méthodes de travail, la tolérance, le respect, la laïcité dans les rapports humains et une gouvernance davantage transversale pour traiter tous ces sujets. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui explique d'ailleurs que, dans une première approche, vous ayez un assez grand nombre de rapporteurs qui sont inscrits, parce que quand vous lisez naturellement la délibération, enfin, ce n'est pas une délibération, c'est une orientation stratégique, vous voyez bien que tout ça ne recoupe pas une seule délégation, mais plusieurs délégations et plusieurs approches qui doivent faire le lien approfondi avec chacune des communes, le lien avec le monde associatif, le lien avec, je dirais, une multitude d'intervenants et de partenaires. Mais s'il y a bien un lieu où on doit ici débattre de ces questions, c'est dans cette enceinte. C'est une évolution, je dirais, irréversible de l'objectif que nous devons poursuivre ensemble. Mais nous ne sommes pas les seuls. Je sais que beaucoup d'autres grandes métropoles se lancent dans cette approche des choses. Je souhaite aussi que d'autres collectivités, départements et régions fassent la même chose, cette globalisation de prise à bras-le-corps d'un certain nombre de sujets qui concernent nos concitoyens. Donc, sans plus tarder, j'ouvre le débat. Valérie, tu...
Oui, monsieur le Président, mes chers collègues, quelques mots pour insister sur la légitimité de ce premier chemin métropolitain, le chemin de la santé et du bien-être. Il s'inscrit dans une tradition territoriale d'excellence en termes de santé publique, avec des personnalités qui ont eu par leur action un rayonnement bien au-delà de nos frontières. On parle ici fréquemment du doyen Parisot, cofondateur de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OHS sur le plan local. On pourrait en nommer bien d'autres. C'est toujours un exercice périlleux. Je vais m'y risquer. Vous allez retrouver des noms que vous connaissez, bien évidemment. Le professeur Larcan, qui était à l'origine de la médecine d'urgence et SAMU. Le professeur Cuny, en gérontologie et en médecine interne. Le professeur Pierson, très présent dans le domaine de l'éthique. Le professeur Canton, en maladie infectieuse, il a soigné les premiers malades du sida dans les années 80. Professeur Mancio, enfin, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, dont les travaux font encore foi de nos jours. La liste, bien sûr, pourrait être bien plus longue, mais moi, je vais la terminer par la personnalité qui était à nos côtés il y a encore quelques mois, expert en climatologie, le professeur Boulanger. Domaine de la santé, domaine d'excellence, qui s'appuie aussi sur une expertise remarquable en termes de recherche et un vivier d'entreprises dynamique. J'en veux pour preuve une manifestation qui s'est déroulée hier dans les locaux d'Artem, organisée par l'Institut des mines télécoms et l'IMT Grand Est, qui était autour du numérique, contributeur à l'accompagnement de l'autonomie des personnes dans leur lieu de vie en matière de santé et de bien-vivre, et était rassemblée autour de cette notion du suivi médical du futur, à la fois des entreprises, des professionnels de santé et des équipes de recherche locales et européennes. Fort de cet environnement porteur, il nous faut nous engager sur ce chemin du bien-être et de la santé avec une vigueur renouvelée. Se préoccuper de la santé de nos concitoyens, c'est être attentif à leur équilibre biologique, psychologique et social, mais c'est aussi replacer la santé humaine dans ses liens avec la santé de l'écosystème. J'avais parlé la dernière fois des petites fleurs, ça avait fait sourire un certain nombre d'entre vous, mais il est vrai que la santé humaine doit se replacer en lien avec la santé des sols, de l'air, de l'eau, des plantes et des animaux. Il nous faut être dans un souci plus large d'attention au vivant et au devenir de la planète. Partant de ce constat, la construction du plan santé-bien-être doit se faire dans la plus grande transversalité et avec les partenariats les plus diversifiés. Ce chemin, enfin, nous devons l'emprunter en pleine conscience, au regard de la réalité clinique du territoire, marquée par le vieillissement, la perte d'autonomie, les précarités, les maladies chroniques, la souffrance psychique, les sédentarités. En questionnant l'ensemble de nos politiques, une par une, l'habitat, l'urbanisme, la cohésion sociale, la manière dont nous construisons l'espace public, la place enfin de la nature en ville. En questionnant aussi les grands bouleversements de nos sociétés liés au numérique, à l'intelligence artificielle, aux données et aussi à la notion de littératie en santé. Enfin, il nous faut accompagner les grandes mutations de notre système de santé, qui est fortement, comme l'a dit le Président, fortement mis à mal actuellement. Décloisonnement, simplification, confiance dans la capacité d'invention et d'innovation des acteurs pour garantir ensemble un égal accès à des soins de qualité pour tous. Le challenge, c'est donc de passer d'une métropole attentive, préoccupée des questions de santé, à une métropole productive de santé et de bien-être pour tous.
Merci. D'autres interventions ? Malika ?
Oui, Président, mes chers collègues, quand on parle de bien-être, il y a le bien-être personnel, il y a le bien-être social. Qui peut dire si on est dans une situation de bien-être ? Quand on interroge un individu, une personne, c'est que cet individu ou cette personne qui peut dire « je suis dans le mal-être » ou « dans le bien-être ». Donc cette définition, même si elle a plusieurs définitions, on ne peut pas lui donner une caractéristique bien définie. C'est un ensemble, puisque l'aboutissement, c'est se donner aussi des objectifs. C'est comment, dans une société, dans un espace, dans une ère, être dans une logique de bien-être avec soi-même et avec les autres. Donc cette recherche de qualité peut avoir plusieurs axes. Un axe davantage de prévention. Et la métropole peut avoir, et on le voit au travers des différentes actions qui sont menées actuellement, aussi bien dans le cadre du PLUI, dans les PADD, puisqu'on arrive dans le plan opérationnel, on est également actuellement sur la charte de l'aménagement des espaces publics. Comment, sur un exemple d'espace public, on peut donner un espace à nos concitoyens pour qu'ils puissent se mouvoir, se déplacer et être bien. Être bien près de chez eux, être bien dans leur déplacement, dans leur mobilité. On a de nombreux parcs sur notre métropole. On n'est pas obligé de créer forcément d'autres, je dirais, espaces parcs, mais comment un parc peut rayonner autour de lui sur un rayon de 5 minutes, 10 minutes et 15 minutes. C'est ce qu'ont fait nos amis les Anglais. Quand on a un parc, il faut l'ouvrir. C'est comment ce conditionnement peut intervenir dans un schéma de régularité dans les mobilités et les déplacements, puisque quand on se déplace, c'est soit pour aller au travail, soit pour y trouver des loisirs, ou tout simplement se promener et tout simplement être bien. Donc, c'est pas la peine d'inventer plus, c'est comment faire avec ce que l'on a, puisque cette nature peut à la fois anticiper, prévenir et aussi nous guérir. Vous savez que les psychiatres américains aujourd'hui consultent en marchant dans les parcs avec leurs patients, et c'est ce qui évite la prise de médicaments et d'antidépresseurs. Donc les bienfaits de la marche, je n'en ferai pas bien sûr aujourd'hui, parce qu'il nous faudrait quand même plusieurs demi-heures pour l'expliquer, mais cette charte de l'aménagement des espaces publics va avoir un impact important en matière, je dirais, de mobilier urbain, de cheminement, de discontinuité. D'ailleurs, le plan piéton vient d'être lancé en parallèle, puisque nous y travaillons en parallèle avec le plan vélo. C'est comment cet aspect aussi rendre ludique, si c'est des chemins pour les enfants, des chemins plus, je dirais, rassurés, mettre en sécurité pour les personnes âgées. Comment aussi trouver, fonder, construire, argumenter les indicateurs de mesurabilité du bien-être dans un espace public, l'accès à la nature en ville, tout en regardant le même nombre, je dirais, de critères aujourd'hui. Mais comment peut-on définir ensemble et comment peut-on aussi jauger le curseur qui bouge et dans quel sens? Donc tout ça, le travail peut se faire bien sûr avec nos concitoyens, les habitants et les laboratoires de recherche qui se situent dans notre métropole. Et Dieu sait qu'on a, je dirais, de la matière et de la compétence. La loi actuelle, puisque nous attendons la loi sur les mobilités qui devrait arriver, puisqu'elle est toujours en examen au Sénat, met en avant les masques qu'on appelle, ce sont des données qui permettent aujourd'hui de pouvoir donner de l'information à nos concitoyens pour pouvoir profiter pleinement de ce qu'on appelle la chaîne de développement. Donc vous voyez que cette mesurabilité aussi numérique, l'aspect physique, introduit, on a un travail de transversalité dans les chemins, dans la chaîne de mobilité, ce qu'on appelait dans la logistique urbaine à l'époque le supply chain, on l'a aujourd'hui dans cette chaîne de valeur, dans les déplacements, les transports et la mobilité. Voilà, donc je terminerai juste pour rappeler que différentes disciplines aujourd'hui, donc je ne vais pas citer tous les sociologues, mais pour ceux qui le connaissent, mais la philosophie, l'anthropologie et les sciences politiques s'intéressent de plus en plus à ce bien-être dans notre société, et plus on le fera très tôt, surtout sur les nouvelles générations, et plus on gagne du temps et d'éviter le curatif, puisque cette logique nous a longtemps habité, et il faut qu'on change de paradigme. Plus on anticipe, plus on donne des nouveaux réflexes en matière de santé, et parfois c'est toutes des actions très simples à mener, et je vous invite bien évidemment à télécharger l'application Les Mollets d'Or qui vous justement traduira vos marches.
Enfin, j'ai vérifié, c'est pas tout à fait le cas chez moi.
Il faudra vous y mettre, Président.
Alors, il y avait François Werner, puis Monsieur le maire de Vendeuvre.
Merci, Monsieur le Président et Monsieur le maire de Vendeuvre. Premièrement, pour répondre à l'interrogation du Président sur le fait que c'est vrai qu'aujourd'hui, aucune collectivité n'est clairement en charge de la question de la santé, je pense qu'on peut s'en réjouir. On peut s'en réjouir parce que ça veut dire qu'elles le sont toutes, d'une part, mais deuxièmement, c'est aussi parce que le parcours de la santé et du bien-être, et les maires le voient quotidiennement, il a profondément changé depuis un certain nombre d'années, et il n'est plus seulement celui du médecin de ville, celui du CHU, celui de l'EHPAD pour la partie départementale. Il se situe à peu près partout. Et le travail sur la santé, sur le bien-être, finalement, nous en sommes tous dans les différents échelons de collectivités, y compris de réseaux associatifs ou de réseaux de solidarité et de proximité. Nous en sommes tous une partie prenante. Et c'est plutôt une bonne chose. Et comme d'habitude, dans ce genre de cas, les maires et donc l'intercommunalité, forcément, sont un petit peu l'espèce de couteau suisse qui permet de travailler sur tout ce sujet. Et je pense qu'on est plusieurs, même nombreux, au sein de cette Assemblée, à constater ça tous les jours et à essayer de répondre en particulier à des demandes qui évoluent et avec des solutions qui évoluent elles-mêmes extrêmement vite. Alors, si je passe sur le sujet plus scientifique, si je puis dire, plus universitaire, je voudrais juste dire que les indicateurs du programme régional de santé, qui ont été présentés par ma collègue du Conseil régional, Véronique Guillotin, il y a un an, sont assez inquiétants. On n'est pas un territoire, la région en général et la métropole en particulier, on n'est pas un territoire particulièrement favorisé en matière de santé. Et pourtant, on a des chances qui sont importantes et qu'il faut qu'on sache travailler. D'une part, on ne dit pas suffisamment souvent, mais quand on regarde de façon un peu fine les indicateurs qui construisent le classement de Shanghai, notre école de santé publique de Nancy est la première de France. Si elle sait de surcroît travailler avec Strasbourg, si autour les CHU de l'ensemble du territoire, Reims, Nancy, Strasbourg, par exemple, savent bien travailler ensemble, on a la possibilité d'avoir la meilleure mesure des déterminants de santé possible sur notre territoire français. Donc il faut en être fier, il faut savoir bien l'utiliser. On a des cohortes anciennes, puissantes, et ça, c'est un atout absolument fondamental. Évidemment, la difficulté d'attractivité de notre région, eh bien, elle impose aussi que l'offre de soins hospitalières, ça va être décrit par d'autres tout à l'heure, eh bien, se trouve confortée au meilleur niveau d'excellence. Et c'est pour ça que, évidemment, sur des sujets comme la protonthérapie ou les biobanques pour les maladies rares, eh bien, il faut se battre et faire en sorte que nous ayons les meilleurs équipements possibles. Enfin, et je voudrais en terminer par là, nous avons beaucoup d'étudiants. La problématique de la santé scolaire et estudiantine est quelque chose qui est particulièrement prégnant, qui ne s'est pas amélioré ces dernières années, comme chacun le sait. Nous avons un travail très ancien, un partenariat très ancien avec l'université sur la santé étudiante. On y met un petit peu d'argent, mais derrière ça, c'est aussi des sujets personnels et des parcours personnels et individuels qui sont importants. Donc je me félicite que tout ceci n'ait pas été oublié dans le chemin métropolitain que nous évoquions.
Merci François Werner, puisqu'on est sur le plateau de Brabois. Monsieur Laurent Hénard, président du conseil de surveillance du CHU, il y a beaucoup d'alarmes, beaucoup d'inquiétudes. Où en est-on? Comment peut-on aider les équipes du CHU, son conseil d'administration, ses cadres sociaux et ses militants syndicalistes, pour qu'on trouve ou on retrouve la sérénité, l'envie de faire, et que dans cette région Grand Est, à l'aune de laquelle peut-être un jour l'organisation des CHU se posera, retrouve, y compris d'ailleurs, ce qui me semble utile maintenant, un partenariat éclairé avec nos partenaires du CHR de Metz-Thionville, notamment dans les domaines de la recherche et un certain nombre de domaines. Je sais que les équipes médicales sont en train de réfléchir de manière ouverte et respectueuse les unes des autres à des perspectives. Où en est-on?
Alors d'abord, je pense qu'il faut rappeler que le CHU est évidemment une chance pour notre métropole. Il est dans le classement des 10 premiers CHU français, malgré les difficultés et malgré, je dirais, les campagnes de presse suscitées par des fuites orchestrées de la haute administration française. C'est important de rappeler qu'au-delà de son classement dans le top 10, on a un centre hospitalier universitaire, comme le disait François, qui est très en pointe sur la recherche clinique. Et à la rigueur, il y a une répartition naturelle qui s'opère avec Strasbourg. La recherche fondamentale est plutôt à Strasbourg, la recherche clinique plutôt à Nancy. C'est d'ailleurs une répartition qui se fait à l'échelle de l'ensemble de nos deux universités respectives. Et là, on voit que des coopérations sont évidemment possibles. Je voudrais rappeler d'ailleurs qu'en 2017, des premiers mois de 2018 montre que le CHU de Nancy est un des rares CHU français qui accroît encore son activité, son chiffre d'affaires, son nombre de patients, ce qui veut dire qu'il est en tout cas attractif. C'est aussi une chance pour notre territoire parce que sur les 36 000 emplois que compte la métropole dans le domaine de la santé, c'est le premier secteur d'emploi de notre bassin d'emploi, de notre économie locale. 12 000 sont dans le centre hospitalier régional universitaire et évidemment les enseignants, les chercheurs, ceux qui font la dynamique d'innovation qu'évoquait François. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les efforts ont été consentis et amènent des résultats. Le déficit prévisionnel est, du CHU, il est autour de 17-18 millions d'euros pour 2018. On revient de loin, puisque quand le plan de refondation a été mis en place en 2014, il était de l'ordre de 40 millions d'euros. Et ce déficit n'était pas en 2014 un fait nouveau, puisque 2017 a été la 13e année consécutive de déficit de l'établissement. Donc pour la première fois, on a vu un redressement des comptes s'inscrire dans la durée. C'est important parce que diviser le déficit par deux, quand on sait que le CHU fait une trentaine de millions d'euros d'investissement, ça veut dire qu'on est passé d'un CHU qui était en déficit et empruntait pour son fonctionnement à un CHU qui dorénavant emprunte pour investir, acheter de l'équipement, des brevets, des licences, du matériel, actuellement construire le grand laboratoire de biologie sur le site de Brabois. Je voudrais dire évidemment que, comme maire de Nancy, je comprends la mobilisation du maire de Vendeuvre, puisque nous sommes les deux villes qui accueillons des sites du CHU, et que le site de Brabois, c'est l'avenir du CHU. C'est l'avenir du CHU pour trois raisons. D'abord parce que c'est là où sont déjà installés les plateaux techniques et que la complexité de plus en plus grande des investissements fait qu'on ne peut plus multiplier les équipements et qu'il faut les concentrer, et c'est Brabois le site logique pour cela. Le CHU a de plus en plus de projets, évidemment, avec l'université. On pourrait évoquer, tu évoquais les biobanques, François, on pourrait évoquer l'hôpital virtuel. Tout ça est à Brabois. Et puis enfin, et ça mérite d'être dit, le CHU participe à la logique technopolitaine que la métropole veut insuffler sur le technopôle de Brabois. L'hôtel à projet économique qu'envisage le CHU avec les entreprises du secteur sera bien sûr lui aussi installé à Brabois. Alors, où en sommes-nous des discussions avec l'État ? D'abord, on a un État qui audite, inspecte beaucoup. Alors, le CHU ne craint pas l'audit et l'inspection. En moyenne, c'est 2 à 3 audits chaque année depuis 5 ans. Et nous en sommes à la 5e inspection générale, IGAS, diligentée dans l'établissement. Le but est de clarifier éventuellement les derniers éléments chiffrés et notamment la capacité qu'a le CHU à supporter l'investissement. Sur ce point, et ce sera la fin de mon propos, l'investissement, c'est 4 données clés. Un, on rappelait la nécessité. Moderniser les équipements, bien sûr, mais surtout diviser par 2 le nombre de mètres carrés par patient ou par agent. Aujourd'hui, le CHU de Nancy, c'est dans le top 10, celui qui a 2 fois plus de mètres carrés par agent, par patient, par médecin, que les 9 autres CHU du top 10. Donc il y a vraiment, avec les 7 sites d'implantation, une rationalisation à effectuer, et elle permettra les réorganisations qui permettront aussi des économies et un assainissement des comptes. L'investissement, c'est ensuite un facteur essentiel de performance. Beaucoup de services attendent cet investissement pour être mieux organisés et pour être plus compétitifs avec les autres grands hôpitaux. Et l'investissement, c'est même l'avenir de notre site. François évoquait la protonthérapie. Le seul endroit où on pourrait installer cet équipement qui serait un des 5 premiers en France à être développé, c'est évidemment Brabois. Il impose d'ajuster les choses avec l'ICL et avec l'hôpital. Il impose donc un investissement massif. Sur le volume de l'investissement, je rappelle qu'il est très mesuré. 400 millions d'euros en euros d'aujourd'hui, 500 en euros de 2030. C'est autant que le CHU de Reims, c'est la moitié de la restructuration du CHU de Strasbourg. Donc Nancy, qui est de rang comparable à Strasbourg, propose un investissement de la moitié du montant de Strasbourg, ce qui prouve que c'est un projet bâti dans une logique d'économie. Alors aujourd'hui, ce qui peut être fait, Monsieur le Président, c'est d'abord rester unis, éviter les démarches individuelles et isolées, rester groupés comme nous l'avons fait à l'issue du Conseil de surveillance du 28 août, montrer l'unité autour du directeur général et des orientations qui ont été prises en Conseil de surveillance régulièrement depuis 2014, des collectivités locales, et je veux saluer l'engagement de la métropole et de la ville, du Conseil départemental et de son président, de la région Lorraine et de la région Grand Est, pardon, et de sa représentante Lorraine au sein sein du conseil de surveillance. Je voudrais dire que la communauté médicale aussi, bien sûr, est extrêmement mobilisée, que nous devons être à ses côtés, parce que je crois qu'il n'y a pas loin de la combativité à la démobilisation. Voilà. Et que la responsabilité de l'État aujourd'hui est majeure, parce que le signal qu'il doit envoyer vite doit permettre, évidemment, à la communauté médicale de continuer à être mobilisée et à envisager des transformations profondes dans ses pratiques. Enfin, et ce sera la fin de mon propos, il faut saluer le caractère responsable et les efforts consentis par les personnels représentés par les organisations syndicales aujourd'hui, parce que sans eux, le plan de refondation, le retour à un équilibre de fonctionnement, même si l'équilibre d'investissement reste à trouver, n'aurait pas été possible. Voilà ce que je pense. Je crois qu'il faut qu'on maintienne la pression. Je pense qu'il faut que, bien sûr, le Conseil de surveillance se prononce sur le rapport IGAS début décembre. Moi, je suis confiant sur ce rapport parce que nous avons mis en œuvre toutes les préconisations de l'IGAS et donc il n'y a pas de mauvaise surprise à attendre. Et je pense que derrière, il faudra évidemment mettre l'État face à ses responsabilités et passer d'un accord de principe au projet d'investissement sur Brabois à un accord opérationnel, à un montant de concours financiers et un échéancier de concours en prêt.
Merci, docteur Carpena.
Merci, président. Chers collègues, donc ce projet, de toute façon, ne peut avoir à titre personnel que mon adhésion, parce que Valérie Gérin sait parfaitement l'importance que j'attache au développement de la santé et à l'intégration en fait des principes des villes santé de l'OMS auxquelles Vendôme comme Nancy et la métropole font partie, sont adhérents. Ces principes, si vous voulez, inspirent d'une certaine manière ces chemins métropolitains qui considèrent que l'action en santé nécessite une mobilisation globale sans laquelle l'intervention des professionnels de santé n'a qu'un effet ponctuel qui n'est que limité à la réparation des désordres. Alors, ce texte est toutefois un petit peu, pour moi, un petit peu général, et donc ça m'amène à présenter un certain nombre de réflexions. La première, c'est que lorsqu'on aborde le cadre de vie urbain, qui est un élément tout à fait, à mon avis, essentiel, est primordial. On évoque en premier lieu les espaces naturels, les espaces verts, les espaces boisés, en faisant référence au parc, comme l'a fait tout à l'heure Malika. Il est clair que dans une ville comme Vendôme, où on a la chance d'avoir un grand parc central, on peut tout à fait émettre des prolongements. C'est ce qu'on envisage de faire, d'ailleurs, dans le cadre de la rénovation urbaine, de faire des espèces de prolongements qui vont dans les quartiers, de manière à verdir ces quartiers, d'une part, et d'autre part, faire des cheminements un petit peu doux. On est un petit peu frappé par le fait que dans certains endroits, on est amené à densifier de façon importante, un petit peu au détriment de cette nature entre guillemets. Et donc, je pense qu'il est nécessaire, plus que jamais, d'intégrer, comme on cherche à le faire nous sur Vendôme, à intégrer ces parcs au sein des zones d'habitat qui sont nouvellement créées, plus que par des petits îlots de verdure qui n'ont finalement que peu d'intérêt. Alors, ça aurait aussi l'avantage de créer de vraies zones de vie sociale. Alors, l'autre élément, c'est la promotion de l'activité physique. On a vu tout un travail là-dessus, qui est là aussi quelque chose d'extrêmement important. On a une population qui a une sédentarité qui s'accroît, et qui en présente effectivement toutes les problématiques de santé. Donc pour revenir sur ces petits parcs qui permettent effectivement de l'activité physique, qui permettent de créer des parcours de santé, qui permettent éventuellement de créer des petites structures qui vont permettre du sport au sein même du quartier, c'est un petit peu c'est ce que l'on développe sur le projet Pharon, qui de ce point de vue-là répond et s'inspire des règles des villes santé de l'OMS. Alors, ça, c'est, euh, c'est le deuxième point qui est l'activité physique. Le troisième, c'est la nutrition, qui là nécessite une véritable éducation à la santé. C'est quelque chose qui est pour moi extrêmement important et dès le plus jeune âge. On a des problèmes d'obésité qui explosent à l'heure actuelle, qui explosent de plus en plus, en particulier dans les quartiers prioritaires, et chez des enfants qui sont de plus en plus jeunes. Cette éducation en santé doit se faire dès le plus jeune âge dans les écoles. Alors certes, un certain nombre de communes pratiquent cette éducation en santé de façon ponctuelle. Je souhaiterais pour ma part qu'elle soit beaucoup plus généralisée et je souhaiterais que des élus plus nationaux viennent prendre acte de la chose et proposer peut-être à des ministères, ministère de la Santé et ministère de l'Éducation nationale par exemple, d'intégrer ces notions d'éducation pour la santé et d'éducation de la nutrition en particulier au sein des écoles dans le cadre même de l'éducation. On va conclure là parce que je suis sur les 5 minutes. Pour la gouvernance, je voulais simplement dire une petite chose. Je souhaiterais simplement que cette gouvernance soit, comment vous dire, ne soit pas plutôt une grand-messe de Diseux, mais soit plutôt une association de Feuzeux, comme dirait Alexandre Jardin.
Voilà. Bien.
Je vous remercie de votre attention.
Alors, Valérie Debord.
Monsieur le Président, mes chers collègues, je partageais avec vous une réflexion que me faisait hier Dominique Valk, nous étions avec Valérie Jurin au Conseil de développement. Il me disait qu'être assis plus de 40 minutes par jour était très mauvais pour sa santé. Donc je pense que nous sommes tous en passe d'avoir une santé absolument complètement négative. Point de cette raillerie. Je souhaite en fait partager ici ce que nous pourrions peut-être faire sur ces chemins métropolitains de la santé et du bien-être en fonction de nos compétences. Après tout, de façon pragmatique, de façon concrète, on peut donner de la qualité de vie et du bien-être. Du bien-être pour nos concitoyens, nos habitants, ça passe somme toute par un bien-être chez soi. Être bien chez soi, avoir envie de rentrer chez soi, avoir envie d'accueillir des gens chez soi, c'est une forme de bien-être, alors qui va se développer avec d'autres. L'emploi, on pourrait en parler aussi. Avoir un emploi, c'est évidemment un bien-être absolument évident. Aujourd'hui, par rapport à l'habitat, nous avons au sein de notre métropole la possibilité de faire un certain nombre d'actions. Nous le faisons évidemment d'ores et déjà au travers du programme local de l'habitat. On a évoqué la problématique de la démographie vieillissante. Nous sommes une des régions qui vieillit le plus en France, avec notamment l'Occitanie. Il y a la nécessité de construire des parcours, des cheminements qui permettent de passer d'un habitat à l'autre en fonction de ses capacités, en fonction de ses envies aussi, bien sûr. Ça doit être une dimension extrêmement importante dans cela. Alors, nous le faisons, bien sûr, mais dans le cadre de ces chemins métropolitains, je souhaite qu'on puisse accélérer cela et qu'on le mette en résonance avec des cheminements dans nos rues, des cheminements dans nos centres commerciaux, des cheminements dans l'ensemble de nos rues commerciales aussi, puisqu'on sait qu'il ne suffit pas d'être bien chez soi et d'avoir un appartement accessible. Encore faut-il pouvoir sortir de chez soi. Et quand on est une personne âgée, qu'on a besoin de s'asseoir tous les 200 mètres parce qu'on ne peut pas porter son paquet, quand on est une personne handicapée, qu'on a aussi besoin de s'asseoir parce qu'on a cette difficulté particulière, il faut penser la ville par rapport à ça, par rapport à ces mobilités qui sont douces mais qui sont adaptées en l'espèce à des personnes qui n'ont pas la même mobilité qu'un valide jeune. Autre élément que je souhaite également nous puissions aborder, c'est toute la problématique de la pollution de l'air. Pollution de l'air intérieur, pollution de l'air extérieur. On évoquera tout à l'heure un effet direct, somme toute, de ce que nous proposons aujourd'hui avec la mise en place de critères. Mais on voit que la pollution joue beaucoup sur les problèmes de santé, notamment des jeunes, des enfants, les bronchiolites, tous les problèmes liés à l'asthme, les problèmes également de pollution intérieure, de l'habitat sont quasiment des fois plus importants que les problèmes de pollution extérieure. Et nous avons là la possibilité d'agir, notamment avec ce que nous mettons en place avec la Maison de l'Habitat du Développement Durable, sur un habitat sur lequel nous accompagnons la transition énergétique. Non, mais en fait, il m'acclamait, Monsieur le Président. Sur la transformation par rapport à ce que nous pouvons apporter comme isolation thermique, isolation également sur les systèmes de chauffage, l'aide également pour le remplacement d'appareils indépendants au bois, pour mettre en place des dispositifs qui permettent d'améliorer la qualité de l'air extérieur. Tout ça, nous le faisons déjà, en grande partie, avec notamment les certificats d'économie d'énergie. Je lance un clin d'œil à Jean-François Husson par rapport à ce dispositif, mais on peut l'amplifier. On peut l'amplifier sur notre métropole, on peut l'amplifier en lien, comme on l'a dit hier avec le Conseil de développement à Dominique Valc, on peut faire en sorte d'être vraiment des lieux d'expérimentation pour que cet habitat durable, qualitatif, qui prenne en compte la réalité des chemins de vie, eh bien, s'inscrive réellement dans ces chemins métropolitains. En tout cas, je pense que c'est l'ambition que nous pouvons ensemble porter. C'est une ambition qui dépasse, bien sûr, à la fois les mandats et nos personnes. C'est une ambition de longue durée. Et c'est justement maintenant, certainement, avec les moyens modernes dont nous disposons sur les constructions, sur le bois, sur les différentes filières, sur la volonté d'être beaucoup plus locavore, que nous pouvons aujourd'hui inscrire cela. Donc je pense, Monsieur le Président, que si nous arrivons à inscrire cette volonté dans le cadre de cette déclinaison de santé-bien-être, eh bien nous répondrons en partie, soyons modestes, mais en tout cas en partie importante, à un bien-être certain pour l'ensemble de nos concitoyens.
Merci Valérie. Stéphane Ablot.
Monsieur le Président, c'est vraiment quelques mots très, très rapides pour dire que ce sujet fondamental, on l'a bien vu avec les interventions qui ont précédé sur la nécessité de voir cette problématique de façon globale. La santé, c'est l'environnement, c'est le bien-être, c'est les moyens de circulation, piétons, là où on peut construire ensemble pour voir comment on peut à la fois se déplacer, se rencontrer. C'est un ensemble, finalement, de facteurs qui est très large, sauf que, et ça a été rappelé par Monsieur le maire de Nancy, qui est aussi président du CHU, il y a aussi des acteurs directs de la santé qui travaillent aussi en amont, en prévention, avec les acteurs de la cité. Et donc, on se rend compte qu'il n'y a pas de séparation, de mur entre les mondes, et qu'on doit vraiment travailler ensemble. Et de ce point de vue-là, de façon directe, puisque Laurent Hénard est intervenu sur le CHRU, puis son devenir, je voudrais dire qu'on a reçu, puisque Vendeuvre est concerné avec le plateau de Brabois, Brabois, c'est aussi Villers, et je ne sais pas ce qu'en pense Monsieur le maire de Villers, mais il s'est exprimé tout à l'heure, en tout cas, il m'a convaincu sur la nécessité de travailler ensemble. Je dirais simplement qu'on a reçu les acteurs directs de la santé. Et le président Rossineau l'a bien dit, les salariés doivent être rassurés. On les a vraiment fait attendre. On les a fait tourner en rond. On les a fait vraiment... comment ils sont dans une situation difficile, d'instabilité. On les a reçus, nous, à la mairie de Vendeuvre. Ils sont, je dirais pas, au bout du rouleau, mais en tout cas, il faut se rassembler. Et eux, ils sont rassemblés, puisqu'il y a un intersyndical... qui fonctionne, notamment lundi à 9h30, il y a le directeur de l'ARS qui sera présent boulevard Joffre à Nancy pour une réunion qui recevra les élus. Et nous, en tant qu'élus à Vendeuvre, on a décidé effectivement de participer au dialogue avec les institutions. Mais à un moment donné, dans le dialogue et dans la présence des élus, on est aussi citoyens. Il faut aussi appuyer aussi les salariés, ceux qui travaillent tous les jours au quotidien. Donc là, on sera fiers d'être à leur côté, de mettre nos écharpes et de manifester pour montrer que le dialogue, c'est bien, il le faut, mais à un moment donné, il faut aussi des réponses et des réponses concrètes, parce que je crois que le rapport de force, il n'est pas, en tout cas dans la situation actuelle, c'est pas les salariés, parce qu'ils seront dans la rue, qui doivent être montrés du doigt. Il faut aussi penser à eux et être à leur côté, être solidaire. Donc voilà ce que je voulais dire. J'en ai parlé à Laurent Hénard hier. Il sera, lui, autour de la table en tant que président du CHRU, mais il a compris aussi la nécessité d'apporter notre solidarité aux salariés.
Merci, Monsieur le maire de Vendeuvre. Didier Sartelet.
Et Monsieur le Président, chers collègues, santé et bien-être. Cette thématique occupe, bien sûr, l'esprit de tous les décideurs politiques qui se veulent au service de tous et doit orienter, de par son caractère transversal, bien des décisions. Les actions menées dans de nombreux domaines, comme dont on a parlé, l'habitat, l'urbanisme, les sports, la qualité environnementale, les mobilités, illustrent le concept de One Health, une seule santé. Celle des êtres humains, mais aussi celle de tous les milieux, eau, air, sol, végétaux, animaux, comme l'a dit Valérie Jurin. Il s'agit bien d'une approche globale et systémique. En résumé, l'homme peut se loger et travailler, la nature est préservée. La présentation du plan d'aménagement et de développement durable du futur PLUI dans toutes les villes de la métropole a montré l'intérêt majeur que portent les participants à la qualité environnementale. Notre futur PLUI pose le défi de l'attractivité, mais aussi celui de la transition écologique vers un nouveau mode de développement qui inclut bien sûr le bien-être et la santé. Beaucoup de nos concitoyens présentent aujourd'hui des situations de stress et nous notons, sans observer ce que font les Américains, que ces personnes recherchent des solutions souvent chimiques, qui ne sont pas les meilleures, parfois comportementales, avec des méthodes genre relaxation, déjà plus judicieuses, mais aussi des extractions physiques des ambiances de stress, avec le sport pour certains, la marche pour d'autres, et surtout un retour vers des espaces de respiration, de tranquillité, des espaces naturels ou vers les forêts. La métropole veille à la constitution, protection, réhabilitation de ces espaces de respiration et de préservation de la biodiversité. C'est au travers de l'étude des trames vertes et bleues, de l'identification des zones humides, mais aussi en intégrant en concertation avec le Conseil de développement durable les trames brunes pour les sols, les trames transparentes pour l'air, les trames noires pour la lumière nocturne, les trames rouges pour le bruit, sans oublier les sous-trames des trames vertes et bleues, à savoir les sous-trames forestières, humides, ouvertes et thermophiles, que le futur PLUI s'inscrit dans cette thématique. De nombreuses actions sont menées également en partenariat avec le département, notamment en ce qui concerne les espaces naturels sensibles, mais aussi le plan alimentaire de territoire qui associe également l'ONF et la Chambre d'agriculture. Ce beau dossier est suivi de main de maître par Anne-Sophie Gavrilov et illustre cette volonté de veiller à la santé humaine avec cette thématique d'agriculture périurbaine et de développement de circuits courts. Les communes peuvent également contribuer à ce plan alimentaire de territoire via leurs compétences sur la restauration collective scolaire et la lutte contre le gaspillage, car cette démarche métropolitaine associe la démarche des 20 villes qui la composent. Un diagnostic agricole et forestier est également en cours de réalisation en association avec la Chambre d'agriculture et l'ONF. Les enjeux et sensibilités agricoles et forestières sont connus et seront davantage pris en compte dans le PLUI et les autres politiques publiques métropolitaines. Avant de terminer mon propos, je voudrais vous donner quand même quelques chiffres. La métropole, c'est 2850 hectares d'espaces naturels libres, 395 hectares de parcs et de jardins, et je rassure tout de suite Jean-Paul Carpena en lui disant qu'en ce qui concerne en tout cas les parcs métropolitains, au départ de chacun des parcs, des flyers existent et rappellent l'histoire de ces parcs, mais aussi des circuits de piétons, des circuits piétons sont organisés et permettent de relier d'autres parcs, métropolitains ou non, au sein de notre aire métropolitaine. 657 hectares d'espaces verts d'accompagnement, 52 000 arbres métropolitains qui font l'objet d'un plan de gestion, 15 vergers partagés, 25 jardins partagés, 700 parcelles de jardins familiaux et 145 zones humides identifiées. En notant en plus un réseau de mares qui comporte une centaine de tritons. Cela représente en gros 130 mètres carrés en moyenne par habitant, 130 mètres carrés d'espace vert. Et 80% des logements du Grand Nancy sont à moins de 5 minutes à pied d'un espace de respiration. C'est aussi un partenariat actif avec l'Agence de l'eau, le PNRL, le CPIE, des associations locales comme l'Ortie, Flore 54, Floraine, Racine Carrée, Sauvons nos coteaux, Atelier Vert, entre autres, des collectivités voisines de la métropole, notamment pour le site Natura 2000 du plateau de Malzéville, et bien sûr la Multipôle et la région Grand Est avec notamment l'opération TIGA. Il ne m'est pas possible, dans le temps imparti, de vous faire une présentation plus exhaustive de nos actions, mais sachez que notre métropole vient d'être reconnue sur le plan national et gratifiée d'une quatrième libellule au concours national de capital de la biodiversité organisé par Nature Parif et l'Agence nationale de biodiversité de l'Île-de-France avec l'appui du CEREMA et de Plantes et Cités. Notre métropole arrive en deuxième position sur le plan national derrière Rouen, Seine-Normandie. Et aujourd'hui, cette année, Besançon est la capitale de la biodiversité. Le thème était « Concevoir et gérer écologiquement les espaces de nature ».
Très bien. Voilà. Vous avez eu 45 secondes de plus pour une bonne nouvelle. Donc on ne vous en veut pas. Docteur Sadoun. Fermez votre micro, docteur. Ah.
Monsieur le Président, chers collègues, certains d'entre vous savent que je suis médecin urgentiste au CHU et je ne vais pas vous parler du CHU. Je suis un médecin du curatif et si j'avais à plaider, mais je crois que mes collègues l'ont déjà fait, je plaiderais clairement pour le préventif, pour des actions transversales que vous avez tous très très bien décrites et que je ne vais pas ici répéter. Je voudrais simplement vous parler, peut-être tous en tant qu'élus, avez-vous entendu parler d'un petit rapport, un recueil qui a été réalisé par l'instance régionale d'éducation et de promotion pour la santé dans le cadre du contrat local de santé. Ça a été programmé. Tout cela a été sorti en avril 2018 et il y a eu un recueil assez intéressant réalisé auprès des conseils citoyens de politique de la ville je voudrais vous faire remarquer une des remarques qui était sortie à cette époque et qui expliquait en fait un renoncement dans nos quartiers, un renoncement aux soins liés souvent à des problèmes d'accessibilité ou des problèmes de mobilité. Alors ce sont des choses qui peuvent sembler assez évidentes. Mais je voudrais aujourd'hui, en fait, attirer votre attention sur quelque chose qui n'est pas que métropolitain, mais qui est en grande discussion aujourd'hui même en préfecture, et qui concerne la permanence des soins, la nuit, dans notre département. Il se trouve que l'Agence régionale de santé propose de supprimer dorénavant de manière définitive la garde en nuit profonde. Ça veut dire qu'à partir de minuit, dans notre département, on n'aura plus de médecin de garde. Moi, en tant qu'élu, j'ai été particulièrement choquée par la chose. On a vu les choses venir très, très progressivement. Alors, il y a tous les arguments de démographie médicale. Nancy et Métropole est relativement protégée par l'existence d'une association avec beaucoup de médecins qui sont assez investis et qui, du coup, couvrent ses horaires. En revanche, on va avoir toute une zone blanche dans notre département, et je tenais en particulier en présence du président du conseil départemental à en parler, où, à partir de minuit, eh bien, les familles monoparentales se retrouveront en grand souci si un enfant a 42 fièvres et qu'il faut le faire examiner. Les parents ou enfants de personnes en fin de vie n'auront plus à disposition quelqu'un pour venir réaliser les soins tout à fait dignes et qui sont tout à l'honneur de ma profession, qui sont de permettre la fin de vie au domicile. La douleur, en particulier dans le contexte des cancers, ne sera plus prise en charge à partir de minuit dans notre département. Moi, ça me choque. Je me permets aujourd'hui, devant l'ensemble de cette assemblée, de tous les élus qui ne sont pas forcément concernés. Il est vrai que la métropole est assez protégée, mais de tirer la sonnette d'alarme, c'est en ce moment en plénière. Ce matin, même le Conseil de l'Ordre des médecins s'est ému de ce qui est en train de se passer. Il semblerait qu'aujourd'hui, cet après-midi, les choses vont être adoptées, puisqu'il s'agit uniquement d'une instance consultative et que manifestement, l'ARS va passer en force dans ce domaine. Je me permets simplement à tous, chers collègues, de vous faire passer ce message.
Très bien, merci beaucoup. Et c'est que le début d'une approche et de rapport tendu et difficile, parce que l'Agence régionale de santé, chacun sait, je me suis déjà exprimé dans d'autres enceintes, je ne vais pas en mettre une couche supplémentaire aujourd'hui, mais il est temps que la réforme s'impose, celle qui a été préconisée par le président du Conseil national de l'Ordre, qui a été repris en grande partie par le pouvoir politique sur quelques thèmes très importants. Décentraliser et décloisonner le système, simplifier ce système, libérer les acteurs et garantir un accès réel et de qualité des soins à tous. C'est un projet national et il y a urgence à ce débat. Et si aujourd'hui je suis heureux de voir que dans cette enceinte, on parle de santé, on parle de démocratie sanitaire, on parle de garantie d'accès aux soins, c'est une première nationale que nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire que les territoires s'emparent et ne laissent pas à une administration ou à un ministère exclusivement la réponse de l'organisation et de la satisfaction de nos concitoyens. Je pense qu'aujourd'hui, on tourne une page et c'est bien à l'honneur de Nancy, de l'école de santé publique de Nancy, de l'école et de l'historique, je dirais, de nos maîtres à travers l'Organisation mondiale de la santé. Je pense que les territoires doivent aujourd'hui s'organiser, se prendre en charge avec des appuis, bien sûr, mais aujourd'hui, il faut inventer, innover, décloisonner. Et je pense que c'est un problème qui concerne toutes les professions, même. On voit bien l'évolution du rôle, de la place des pharmaciens, des médecins urbi et orbi. Mais aujourd'hui, on est dans une situation de grave fragilité. Et je le dis à titre personnel, parce que je me suis toujours beaucoup impliqué pour ces sujets. Et la santé doit aujourd'hui être débattue dans toutes les assemblées territoriales. Et c'est, le problème, ce n'est pas ce qu'on fait de l'ARS d'aujourd'hui. La question est déjà réglée, moi, dans mon esprit. Mais le problème est de savoir comment les territoires s'organisent, parce qu'on doit une réponse à nos concitoyens sur ces questions. On ne peut pas les laisser comme vous le décrivez. Et je vous remercie de votre attention, si bien isolés et en situation de panne. Hein. Et l'histoire des déserts médicaux, elle n'est pas arrivée en 8 jours. Hein. C'est une lente fatigue, c'est une lente désorganisation. C'est aussi enfin maintenant, parce que tout ce qui se prépare au niveau des pouvoirs publics nationaux, c'est enfin en accord avec le Conseil national de l'ordre. Et le président du Conseil national de l'ordre est aujourd'hui celui qui mène, je dirais, le débat intellectuellement avec les pouvoirs publics. Et c'est un véritable tournant. Je pense qu'il faut que le Parlement s'empare de ces questions. C'est les territoires, tout le monde s'en occupe, mais il y a des façons de s'en occuper. Hein. Et la santé est vraiment une priorité absolue. Alors, avec un clin d'œil, je dirais quasi, je dirais thermal, je passe la parole au dernier intervenant, Marie-Catherine Tallot.
Les établissements thermaux sont des lieux privilégiés, vous le savez, dédiés à la santé. Ces dernières décennies, ils deviennent des lieux propices au bien-être. Ils se sont adaptés à la demande de nos concitoyens et complètent maintenant leur offre de médecine thermale par des activités de loisirs, de détente, de soins, de remise en forme. Ainsi, aujourd'hui, s'ajoute à cure thermale le care thermal et aux soins le prendre soin. L'eau minérale naturelle est non seulement un traitement médical qui apaise et soulage, mais c'est également un élément qui rassemble. La métropole du Grand Nancy, héritière de la philosophie de l'école de Nancy, et accompagnée de son CHU, de son Université de Lorraine et de ses professionnels de santé libéraux, veut partager cette richesse. Sur le site de Grand Nancy Thermal, l'eau sera partout. Elle sera évidemment sur le pôle thermal, elle sera sur le pôle bien-être, mais elle sera également dans tous les bassins. Elle sera pour tous. Ses vertus thérapeutiques sont démontrées, ses propriétés physiques de température sont là. L'eau de Nancy Thermal sera un atout pour préserver et améliorer le capital santé, ainsi que pour favoriser l'activité physique bénéfique à la santé, ainsi que l'a dit le docteur Carpena. Et sur le site de Grand Nancy Thermal, l'eau sera ouverte à tous. Elle ne sera pas enfermée ni réservée aux seuls usagers. Elle sera accessible à tous les professionnels de santé pour prodiguer des soins, effectuer des travaux de recherche, enseigner et former les futurs professionnels de santé. En conclusion, l'eau du forage de Grand Nancy Thermal est porteuse de promesses de santé, de sport et de loisirs pour tous les habitants du Grand Nancy. Elle sera également l'objet de la fierté d'appartenir à un territoire attractif, chacun pouvant partager sa nouvelle image et sa notoriété. Ambitionner de prendre le chemin de la métropole de la santé et du bien-être, c'est ambitionner de devenir la métropole du bien-vivre à tous les âges et à tous les moments de la vie.
Merci beaucoup. Bien, bah écoutez, moi je voudrais vous remercier de la spontanéité de vos interventions, de la... Oui, c'est vrai. je n'avais pas prévu de liste d'intervenants, comme on a pu l'écrire quelquefois. Et je suis heureux d'avoir eu des vocations. On peut parler de vocation en médecine, et en tout cas de passion. Et si le débat s'engage comme ça, et si on embraye de manière aussi active avec l'actualité, je pense qu'on a bien fait de choisir ce premier thème comme l'exemplarité d'un chemin métropolitain à approfondir. Je pense que nous allons maintenant réfléchir ensemble sur une méthode de travail pour avancer. Là, c'était une prise de conscience, c'était un chemin à explorer. La réponse est largement positive. Il y a plein d'idées qui sont prêtes à jaillir. Il y a en tout cas l'envie de faire société métropolitaine sur ces problèmes de santé et de qualité de vie et de bien-être. Alors, je vous pose la question. Regardez bien le projet métropolitain. On va identifier encore 3 ou 4 thèmes possibles. Et sur chacun de ces thèmes, nous viendrons en débat fondateur dans le cadre de la métropole, comme nous l'avons fait aujourd'hui. On est donc bien aujourd'hui sur une déclinaison de ces chemins métropolitains. Et ça ira d'ailleurs, en termes de réflexion, bien au-delà des process électoraux dans 18 mois. Mais ça nourrira, je l'espère, ce débat avec des propositions concrètes et des formes de partenariat transversaux à l'intérieur de la société. Sur cette approche des choses, donc il n'y a pas de vote aujourd'hui, c'était un débat d'orientation, nous allons pouvoir progresser. C'était un test et je suis personnellement très content de la manière dont vous l'avez géré et de la manière dont vous vous êtes approprié ce document. Nous allons passer à la délibération numéro 2, qui est communication, bien-être et santé, qualité de l'air, mise en place de la circulation différenciée lors des pics de pollution et mesures d'accompagnement. Alors, c'est Valérie qui commence sur ce dossier, puis M. Thierry Coulon, puis Mme Dati.
Je crois qu'on va faire court.
Là, le débat est organisé.
Oui, alors, en fait, avec eux, on va faire. Je vais faire une présentation assez rapide de ce qui, en fait, est une illustration, peut-être, de ce que peuvent être ces chemins métropolitains en matière de santé et de bien-être, puisqu'il est absolument nécessaire de permettre d'améliorer la qualité de l'air de l'ensemble de nos concitoyens. On se rend compte, et ça s'est vu notamment cet été, que sur le Grand Nancy, un certain nombre de pics de pollution arrivent chaque année, alors qui sont dus à des éléments divers et variés, sur lesquels nous avons évidemment, somme toute, peu de capacité d'agir, mais que nous subissons. Et la mise en place de la circulation différenciée lors des pics de pollution qui est prévue par loi de transition énergétique et de croissance verte de juillet 2016 permet aux collectivités qui le souhaitent de s'adosser à des classements sur les véhicules afin de favoriser l'usage de véhicules peu polluants pendant ces pics, ce qui va évidemment naturellement favoriser la qualité de l'air, et de limiter la circulation des véhicules les plus polluants. Donc l'idée aujourd'hui est de mettre en place ce dispositif qui est un point de départ. Il s'agit tout simplement aujourd'hui, Monsieur le Président, mes chers collègues, de faire en sorte de dire que nous, sur notre métropole, nous mettons en place un dispositif qui va nous permettre de lutter contre ces problématiques de pollution avec aujourd'hui des critères qui sont notamment européens, qui sont assez élevés. Certains d'entre vous ont peut-être trouvé que ces critères sont trop élevés, qu'il faudrait qu'ils soient plus restrictifs. Ça ne nous appartient pas. Mais néanmoins, nous mettons en situation, si ces critères sont abaissés, d'avoir le moyen juridique de le mettre en place. Certains vont trouver que c'est trop dur par rapport à l'utilisation des véhicules. Je les renverrai à l'étude de l'OMS qui dit que 7 millions de personnes par an dans le monde meurent des effets de la pollution. Et je vous renverrai certainement à chacun et à chacune autour de vous. Quand on voit les problématiques majeures de bronchiolite auxquelles sont confrontés les bébés, quand on voit tous les problèmes d'asthme extrêmement importants auxquels sont confrontés de plus en plus de personnes au sein de nos entourages, on voit bien qu'il y a là une problématique importante. Donc il nous a semblé qu'il était nécessaire d'y remédier avec un dispositif qui nous met en situation de pouvoir répondre avec des modalités d'application qui font que nous sommes sur un périmètre qui permettra évidemment aux grands axes de circulation de continuer à irriguer la métropole et qui permet également de concerner un certain nombre de véhicules qui, en fonction de leurs critères, pourront être autorisés ou non à rouler. Juste pour vous donner un exemple de nombre de journées qui pourraient être impactées par ce dispositif, l'année dernière, en fait, nous aurions eu une à deux journées qui auraient été impactées. Vous allez me dire que ça n'est pas suffisant. Encore une fois, les critères qui existent aujourd'hui par rapport à la lutte contre la pollution ne nous appartiennent pas. Il n'est pas à douter qu'au regard des différents rapports existants, ces critères vont certainement être durcis. Eh bien, notre métropole aura aujourd'hui les moyens de s'adapter au moment venu et à la nécessité venue. C'est pourquoi il nous a semblé, avec mes collègues, nécessaire de pouvoir vous proposer cet accélérateur de transition au profit de la santé, des mobilités et de l'environnement.
Merci Valérie. Thierry Coulon.
Monsieur le Président, mes chers collègues, juste une précision. Si on prend des mesures, d'abord, elles se feront toujours en accord avec la préfecture. Dans ce domaine, on travaille avec la préfecture. Et tout le système, d'ailleurs, repose sur un travail commun avec le préfet, qui, lui, sur la base des analyses faites par les organismes concernés, prend les décisions les unes derrière les autres. Nous, on s'engage à dire au troisième jour, s'il y a encore un pic de pollution, finalement, un peu plus de 10% des véhicules, on va leur d'interdire de rentrer sur l'agglomération, à moins qu'ils aient eux-mêmes des servitudes qu'on aurait accordées. Et ces véhicules représenteraient, en termes de pollution, un peu plus ou un peu moins de 30%, autour de 30% de la pollution des véhicules. Donc, c'est pas comme ça, si vous voulez, qu'on va résoudre les problèmes. Tout le monde le sait. Par contre, c'est un marqueur. C'est un incitateur. Ça prouve que on lance le système. Et si Nancy n'a pas été n'a pas reçu d'injonction comme d'autres villes parce qu'elles sont polluées. Je prends à des grandes villes, effectivement, qui sont sous la menace d'instances de la part des systèmes de santé, qu'ils soient européens ou français. Eh bien, Nancy aussi a quelques jours de pollution marquée. Cet été, d'ailleurs, c'était pas lié c'était essentiellement lié à l'ozone et à la canicule. Donc, on voit bien que c'est divers et varié. Alors, moi, je pense que simplement, c'est un premier pas, que ça enclenche un système, ça montre qu'on est préoccupé et ça invitera les gens à se dire, si j'ai un véhicule de catégorie 4 ou 5, eh bien, peut-être qu'il serait temps de le changer. Il y a d'ailleurs pour cela des primes qui sont données actuellement par l'État et qui favorisent les changements, même en achetant des véhicules d'occasion. Et c'est toute la stratégie que nous avons. On ne peut pas, à nous seuls, réduire la pollution parce que lorsqu'elle s'abat sur la ville, elle n'est pas générée souvent par la ville, mais elle est générée par l'environnement. Et toute la pollution n'est pas centralisée au centre-ville, mais elle est souvent répartie partout. Mais il n'empêche qu'on a, nous aussi, notre souci et notre mesure. À chacun sa part. C'est déjà une première part.
Merci Thierry. Malika Dati.
Oui, juste pour compléter, alors au niveau des différentes collectivités, comme je dirais le rappel d'actualité, Lyon, Grenoble, Rennes, Strasbourg, Paris, cette vignette critère doit arriver vers le printemps 2019. On prépare également le départ en vacances de juillet 2019. C'est-à-dire que quand on traverse la France avec son véhicule, on arrive aussi sur des collectivités où la vignette est imposée. Donc l'avoir sur notre métropole et en entrée de notre métropole est aujourd'hui, un des premiers éléments. Parce que comme vous pouvez le voir, territoire, c'est justement la vignette critère 4 et 5 qui sont concernés. Alors, dans les territoires où elle a été mise en place, on voit qu'on a une baisse de moins 30% des particules, donc c'est pas neutre, uniquement sur la vignette 4 et 5. Alors, le plan de protection d'atmosphère 2008 avait été révisé en 2016, puisque nous travaillons avec l'État. Alors, la population qui est exposée au dioxyde d'azote, en 2009, nous avions 7500 personnes, et aujourd'hui, en 2018, il y a 61 personnes qui sont exposées, donc une baisse de 99%. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs mesures qui sont faites à différentes échelles, au niveau du département, au niveau de la région, au niveau de la métropole et des communautés de communes voisines. Dans le domaine du transport, 9 entreprises dernièrement viennent d'être labellisées, qui rejoint ce club de 130 entreprises dans le domaine du transport routier, qui correspond à 8000 conducteurs qui ont été également sensibilisés pour économiser 7 millions de litres de carburant. Donc c'est 2200 tonnes de CO2 évitées. Voilà, toutes ces mesures, il y a le chauffage, il y a le transport logistique urbaine également. En 2017, on a eu, comme vient de le rappeler Valérie Debord, 4 épisodes de pic de pollution, PM10, ce qui fait 7 jours en 5 ans. C'est-à-dire que si on devait aujourd'hui mettre en place cette vignette, elle concernerait 7 jours en 5 ans. Vous le savez que sur le plan national, c'est 48 000 décès, 7 millions sur le plan international. Fatih Ribol, qui est le directeur international, enfin directeur de l'Agence internationale de l'énergie, n'est pas très optimiste. Comme vous le savez, le taux de croissance économique dans le monde est de 7%. Donc on repart à la hausse sur les émissions, d'où l'intérêt aujourd'hui d'avoir des actions concordantes. Alors en matière de concertation, et Thierry Coulon vient de le rappeler, il y a eu un travail, il y a eu 3 groupes de travail avec l'État qui a défini justement le périmètre, les véhicules concernés. Alors pour les publics les plus modestes, puisque souvent ce sont aussi des personnes qui possèdent ce type de véhicules. Je vous rappelle que la métropole a répondu à un appel à projet pour accompagner les personnes les plus en difficulté pour changer leur véhicule. Et l'État a mis en place une prime de reconversion de 2000 euros sur des véhicules d'occasion, ce qui correspond à un véhicule critère 2 sur une carburation en essence. Et puis en matière de transport en commun, nous avons le passeport Planète, qui permet pour la journée, pour 1 euro, de pouvoir circuler au niveau des transports en commun. Voilà, d'autres actions également, parce que je ne vais pas faire tout le listing, mais c'est une préoccupation majeure. Alors, la loi fixe 21 jours minimum en matière de concertation. Nous avons demandé à l'État, enfin la préfecture, 2 mois, puisque cette concertation débute le 5 novembre prochain sur une durée de 2 mois. Alors, qui dit concertation, c'est aussi sensibilisation et approche pédagogique qui permet aussi, au travers de ces rencontres, de sensibiliser nos concitoyens et, comme nous l'étions sur la première délibération, le bien-être et la santé.
Merci des interventions. Monsieur le maire adjoint de Vendeuvre, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Oui, globalement, on peut dire que dans la plupart des pays européens, la qualité de l'air irait plutôt en s'améliorant. La raison de cette amélioration, on le connaît tous, hein, c'est d'une part des voitures et des camions qui émettent moins, malgré les tricheries. C'est du fait que pour le chauffage, c'est l'abandon de plus en plus important du fioul et du charbon, remplacé par le gaz. C'est également peut-être hélas, hein, la chute de l'industrie au moins dans notre pays et notamment dans le bassin nancéen, puisque tout ce qui est industrie lourde a à peu près disparu et était, il faut le reconnaître, une source de pollution extrêmement importante. Malgré l'amélioration de cette qualité de l'air, nous avons, et Nicolas a rappelé, environ un nombre d'habitants équivalent à celui de la ville de Vendeuve qui décèdent prématurément à cause de cette pollution. Donc c'est quelque chose d'énorme. Donc il faut absolument continuer à lutter contre cette pollution. Alors, vous proposez le dispositif vignette critère. Bon, ben pourquoi pas, hein, tout ce qui peut aller dans le bon sens est à encourager. Mais au-delà des interdictions, il nous semble qu'il faut également être incitatif. Donc, vous avez parlé d'un dispositif à 1 euro pour les transports en commun. Vu qu'il s'agit de quelques journées par an, il nous semble qu'il faut aller plus loin que la gratuité des transports en commun lorsqu'il y a ces pics de pollution nous paraîtrait quelque chose, on va dire, de nécessaire. Au-delà de cet aspect des choses, Madame Debord disait tout à l'heure qu'on ne peut pas grand-chose. Je crois qu'au contraire, qu'on peut beaucoup. La preuve, d'ailleurs, c'est que la métropole a beaucoup travaillé sur ce sujet. Il y avait un thème qui était cher à Christian Parra, c'était de disposer d'un transport en commun qui n'émette pas de pollution. Aujourd'hui, je le rappellerai, hein, pratiquement tous nos transports en commun sont à gaz naturel de ville, GNV, hein, et c'est quelque chose d'extrêmement appréciable. Également, quelque chose d'important, c'est le chauffage urbain qu'on est en train d'étendre aujourd'hui. Ça va dans le bon sens. Bon, il y a d'autres mesures plus faibles, mais moi, il me semble, ce qui nous manque, c'est qu'on n'est pas assez analytique. C'est-à-dire que ces efforts-là, il faudrait les mesurer et les quantifier, parce qu'ils ne sont pas tous au même niveau. Je ne parlais que des plus importants. Il y en a d'autres qui sont, à mon avis, beaucoup moins efficaces et qui mériteraient, dont le coût et le résultat mériteraient d'être évalués. Et puis, on parle toujours, bien sûr, des actions positives, mais on ne parle jamais des, entre guillemets, des désactions, des actions négatives. Tout à l'heure, on parlait de façon très importante du CHU. Le CHU, sa remontée sur Brabois, la remontée des universités médicales sur Brabois, etc., etc. Alors, je ne juge pas du bien fondé. J'en ai ni la compétence, et même je pense que mettre ensemble l'ensemble des dispositifs médicaux est plutôt une bonne chose. Néanmoins, la géographie est terrible. Ça veut dire concrètement monter de 200 mètres chaque jour des milliers de personnes. Même avec un tram qui va monter à Brabois et que je souhaite de tout mon cœur parce que c'est absolument indispensable, cela ne sera pas suffisant pour remédier aux problèmes de pollution supplémentaire qu'on va apporter et il faudra beaucoup d'actions sur Nancy pour compenser ça en fait. Hein. Le bon sens voudrait qu'on évite d'urbaniser en hauteur quand c'est pas absolument indispensable. Mais c'est un autre débat. Tout ça pour arriver à quelque chose, moi, qui me paraît important. Nous parlons tout à l'heure des chemins métropolitains de santé. Le docteur Carpena l'a souligné, il parlait de quartier santé. Il me semble qu'aujourd'hui, lorsqu'on urbanise un territoire, lorsqu'on aménage un territoire, nous parlons bien d'optimisation sociale, économique, etc., etc. Mais l'aspect santé n'est pas suffisamment pris en compte. Je reprends mon exemple de faire tout remonter sur Brabois. Cela a des conséquences non seulement en proximité, mais aussi sur les chemins. Il y a quelques jours, nous avions une réunion dans le village de Vendeuve, traversée par des milliers de voitures. Pendant 2 heures, les habitants nous ont parlé de la pollution insupportable dans un village non conçu pour ça, de maisons jointives. Les émissions de nombreuses voitures dans des rues étroites ne se dissipent pas. Des mesures seront à faire. On s'apercevra que c'est assez catastrophique. Et peut-être encore plus important, je finis là-dessus, également lorsqu'on aménage un nouveau quartier, on aménage des immeubles, et aujourd'hui, l'endroit qui est peut-être le plus pollué, encore plus que nos routes, c'est la qualité de l'air interne. Et donc là, il y a un vrai travail à faire sur ce sujet. Je vous remercie.
Merci. D'autres interventions, monsieur le sénateur.
Oui, monsieur le Président, mes chers collègues, moi je veux d'abord souligner cette étape supplémentaire, comme ça a été dit, Valérie l'a dit, je crois qu'il y a des signes à donner. Depuis un certain temps déjà, la métropole a parsemé, au long d'un chemin s'ouvrant vers davantage de prise en compte des enjeux écologiques et environnementaux, un certain nombre de bornes. Moi, je considère que c'est une borne supplémentaire. Je veux également souligner... C'est rappelé d'ailleurs au tout début de la délibération que la pollution atmosphérique, elle a, je dirais, 4 grandes familles d'émetteurs. Donc il faut trouver le juste équilibre entre les efforts à faire en matière de transport, que ce soit pour les automobilistes ou pour les entreprises de transport, et puis les autres émetteurs. Il n'y a rien de pire que de fustiger telle ou telle catégorie. Et je crois que c'est à cet instant important de le rappeler. Je veux également dire que ça s'inscrit dans un débat, vous voyez, depuis 48 heures, on parle de péage urbain, on parle de tarifs de congestion, Je pense qu'il faut qu'on soit attentif à ces sujets, parce que s'ils touchent à des réalités sur lesquelles il faut avoir non seulement une vigilance, mais une volonté d'agir, il faut également regarder de quelle manière ça peut se traduire concrètement. Donc j'attire quand même notre attention sur le fait que là, on est sur des propositions qui vont bientôt arriver dans le débat, et je pense qu'il est important qu'on s'en empare tous pour une raison simple. C'est que c'est des propositions qui pourraient être proposées et adoptées, mais dont la mise en œuvre et le coût, aujourd'hui, porteront en totalité sur les collectivités. En totalité. Et vous prenez y compris ce plan, c'est un arrêté préfectoral. Donc les élus, les territoires débattent et décident, et le représentant de l'État dans le département, quelque part, il donne ou pas sa bénédiction, son accord, etc. Donc il faut juste qu'on soit attentif à ça, parce que dans les relations entre l'État et les collectivités, dans le lien de confiance entre nos concitoyens et les assemblées qui gouvernent, en tous les cas, auxquelles les Français accordent leur confiance à intervalles réguliers, on a une responsabilité. Il faut donc qu'on fasse attention, un, d'être dans l'air du temps et plutôt offensif, mais également, il ne faut pas qu'on soit otage ou prisonnier. Et puis, je terminerai par là. Je pense qu'il y a un sujet autour de cette vignette critère qui est, je pense qu'il faut embrasser plus loin sur deux niveaux, en tous les cas, deux sujets au niveau de l'agglomération, parce que on sent bien, vignette critère, à un moment, on va être sur cœur de ville, cœur d'agglomération. On a commencé tout petit à Nancy, monsieur le président, monsieur le maire, puisque le plus bel exemple, c'est la place Stanislas. Alors, j'ai l'habitude de le dire, moi, j'ai été qu'un des petits fantassins qui était aux côtés du maire de Nancy et président de la métropole, André Rossinot. C'est qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme résistance, contre-vérité, et aujourd'hui, d'aucuns, nancéens, grands nancéens, lorrains ou visiteurs, admirent l'espace de la place Stanislas rénové. Eh bien, si on a demain un débat autour d'un espace qui serait un espace de circulation apaisé, alors est-ce que c'est zone de faible émission, est-ce que c'est des plateaux piétons plus larges qui existent dans d'autres villes, pas forcément des villes de 500 000 habitants. Je pense que c'est des sujets dont on doit s'emparer dès maintenant. Parce que le débat, il vaut mieux le faire aujourd'hui à livre ouvert et regarder de quelle manière ces espaces nouveaux peuvent être investis et de quelle manière on réfléchit également en répondant, par exemple, sur les mobilités et les déplacements, notamment dans les villes, à l'offre, puisque finalement ça croise le débat, sur l'offre rénovée de transports collectifs susceptibles d'être mises en œuvre. Voilà. Je crois que c'est important parce qu'on est regardé, évidemment, par nos populations, mais également par celles qui sont autour de nous ou qui se déplacent. Moi, j'entends souvent une grande satisfaction pour les congressistes qui viennent, qui trouvent formidable qu'on ait un centre des congrès à une minute, pour ne pas dire au cœur de la gare. Mais je crois que c'est aussi important qu'on regarde comment on vit et en parfaite harmonie et que les territoires sont très interdépendants et que les circulations se font bien, y compris quand on habite aujourd'hui Saint-Dié, dans la plaine ou dans la vallée, les montagnes des Vosges, parce que ce sont des bassins qui dépendent de notre territoire. Et donc ces enjeux-là, il faut aussi qu'ils soient partagés avec ces territoires. Je terminerai, Monsieur le Président, j'étais trop long, excusez-moi. Et pour dire que, par exemple, le niveau de pollution, il est souvent en été quand c'est l'ozone. La pollution est plus importante au Honnec, à la Chourte ou à la Bresse, qu'au cœur même de la ville. Et pourtant, la presse ne parle que de la pollution urbaine.
Mot de la fin. Je vais mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci de cette unanimité. Le rapport suivant, Madame Jurin, élaboration du contrat local de santé deuxième génération, demande de subvention.
Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues.
On va accélérer un petit peu, si vous voulez. Hein,
nous sommes dans la phase d'élaboration du CLS seconde génération qui s'étendra sur la période 2018-2020. Le contrat local de santé est un outil de contractualisation avec l'Agence régionale de santé. une approche territorialisée des problèmes de santé dans un esprit de coopération entre acteurs regroupés autour d'un objectif commun, la réduction des inégalités de santé. Indépendamment des sommes que l'Agence régionale de santé mettra dans les actions soutenues par le prochain CLS, nous avons la possibilité de demander des financements FIR dédiés à des actions d'animation et de communication pour un montant qui peut être étalé sur 4 ans jusqu'en 2021 pour un montant de 41 000 euros.
Merci. Pas d'observation, pas d'opposition. Adopté. Affaire suivante, modification du règlement d'attribution financière pour la création des maisons de santé.
Oui, la problématique de la démographie médicale est un enjeu central qui conditionne l'accès aux soins de tous. Les maisons de santé pluriprofessionnelles sont une réponse aux besoins de certains territoires carencés. La métropole, pour soutenir leur création, avait établi un règlement d'attribution financière qu'il nous faut faire évoluer au regard des études menées en premier lieu par l'agence Scalen et ensuite par les services de l'ARS. En effet, à l'occasion de la rédaction du programme régional de santé 2018-2027, grâce à un indicateur national appelé APL, accessibilité potentielle localisée, qui se traduit en nombre de consultations par an et par habitant, l'ARS a déterminé des territoires prioritaires, donc en dessous de 2,5 consultations par an et par personne. La métropole n'est pas concernée par ce zonage, mais l'ARS a été au-delà en définition des zones d'action complémentaires comprises entre 2,5 et 4 consultations par an et par habitant.
Ne parlez pas trop de l'ARS.
Cette fois-ci, c'est donc 47% de nos territoires métropolitains qui correspondent à cet indicateur. Il vous est donc proposé de faire évoluer notre règlement d'attribution financière pour nous permettre de sortir du périmètre des seuls quartiers politiques de la ville et venir soutenir les projets de maisons de santé pluriprofessionnelles sur ces zones d'action prioritaire. La deuxième partie de délibération concerne la commune de Villers, qui a depuis plus de 4 ans un groupe de professionnels de santé qui travaille ardemment à la création d'une maison santé pluriprofessionnelle avec le soutien actif de la commune, de la métropole et de l'agence régionale de santé. Cette MSP est située sur le quartier Clérieux, secteur avec une APL de 3,2 consultations par habitant et par an. Donc c'est une zone d'action prioritaire. Il vous est donc proposé de répondre positivement à la demande de subvention de 50 000 euros au titre de l'investissement pour cette MSP.
Merci beaucoup, monsieur le maire de Villers. Brièvement, à la hauteur de la modeste somme qu'on vous alloue.
Brièvement, mais la somme n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le sens, et je voudrais ici remercier toutes les institutions qui ont écouté notre propos. Notre propos, au départ, on disait, mais non, vous n'aurez droit à rien. Vous n'êtes pas assez en ville, donc vous n'êtes pas quartier de politique de la ville. Et quand nous indiquions que le territoire de Clérieux était un territoire pré-rural, desservant et drainant aussi des zones rurales en désertification médicale, on nous disait non, mais c'est pas très vrai, parce que de toute façon, le sujet, ce n'est pas Clérieux, c'est Villers tout court. Et je suis extrêmement heureux qu'avec l'aide d'un certain nombre ici, la métropole, la région, où sous l'impulsion de Véronique Guillotin, la région aussi a changé son règlement. L'État, et on a été avec le député Laurent Garcia jusqu'au cabinet du ministre pour plaider ce dossier, ait entendu ce discours et pu comprendre que ce projet-là était un projet profondément structurant pour l'ensemble du territoire, non seulement de Clérieux, qui est très spécifique, mais aussi de tout ce qui entoure. Et cette somme, pour ce qu'elle représente, montre surtout, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les parcours de santé, qu'on peut entendre qu'un village, car c'est un village de 4500 habitants, dont la moitié des habitants ont passé 70 ans, peut avoir un vrai besoin spécifique en matière de dispositifs collectifs et structurés de santé. C'est pour ça que je voulais adresser un grand merci à l'ensemble de ces structures.
Merci. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Monsieur François Werner, territoire d'innovation de grande ambition, projet des hommes et des arbres, les racines de demain. Entrée du département des Vosges dans le projet et point sur son état d'avancement.
Tout est dit dans le rapport, Monsieur le Président. Plus on est de fous, plus on rit. On était déjà 74, je crois, partenaires. Il s'agit d'accueillir un partenaire supplémentaire important, qui est le département des Vosges, département parmi les plus forestiers de France. Quant à l'avancement, difficile d'être trop précis, puisque les appels d'offres ont pris beaucoup de retard du côté du secrétariat général aux investissements d'avenir. Et par conséquent, on travaille, je dirais, en temps masqué pour faire en sorte que le moment venu, quand le projet sera véritablement connu, on puisse apporter toutes les réponses qui nous permettent de gagner au final cette belle compétition dont les calicots ou kakémonos sur les rebords de cette assemblée vous rappellent qu'on a gagné les éliminatoires.
Très bien. Je voudrais faire deux remarques. D'abord, l'entrée des Vosges est un symbole fort. Le président du département s'est absenté, mais on était ensemble dans un séminaire de travail à Sion et... Je l'ai informé. Le président du département des Vosges s'est exprimé et avec un sourire prometteur, le président du département de Meurthe-et-Moselle m'a dit « on fera aussi ». Donc je voulais le remercier de ce premier geste et j'attends maintenant avec élégance la concrétisation. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, adopté. Alors, l'affaire suivante est au rapport de Monsieur Hénard. Démarche d'attractivité, marketing territorial du Grand Nancy, point d'étape.
Oui, je voudrais rappeler d'abord brièvement le calendrier. Nous avons affiché l'ambition d'une campagne d'attractivité à Nancy, comme d'autres métropoles le faisaient déjà. Je pense notamment évidemment à Lyon, dans notre projet de développement économique, que nous avons adopté de manière unanime en décembre 2015. Nous avons organisé évidemment... Nous avons organisé les services à l'interne et recruté une personne responsable du marketing territorial. C'était en mars 2017. Et en mars 2018, donc il y a un peu plus de 6 mois, nous avons retenu une agence, LMWR, qui est chargée d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans la conception des campagnes de marketing territorial, mais aussi du travail de créativité, de nous aider notamment à établir ce qu'on appelle une marque, c'est-à-dire une sorte de signature qui peut être utilisée par les collectivités publiques, la métropole et les communes, mais aussi par l'ensemble des acteurs du territoire, j'y reviendrai. Et dès la présentation de cette délibération, nous avions fixé l'objectif d'une campagne de communication à l'automne. L'objectif de cette communication, c'était bien sûr, et c'est toujours de la présenter, elle commence au plan national, dès ce week-end, notamment, je pense, aux campagnes d'affichage à Paris, dans le métro et sur certains lieux de la capitale. Nous avons voulu, notamment parce que ça a été mentionné d'ailleurs par pas mal d'acteurs, faire en sorte que les Lorrains et les Nancéens se voient présenter la campagne avant l'affichage national. C'est la raison pour laquelle elle a été présentée dans l'Est républicain, dans le Républicain Lorrain, dans la semaine, sur les médias locaux. Et nous avons voulu, avec NJP, puisque les acteurs culturels sont impliqués dans cette campagne, avoir un événement qui permette de la présenter aux décideurs économiques, universitaires, scientifiques. C'est la raison pour laquelle, Madame Khirouni, effectivement, la présentation du visuel, il ne s'agit pas de toute la campagne détaillée, mais du visuel, a été faite le 15 octobre, et cette date avait été choisie avec NJP, en fonction de leur programmation, de leur disponibilité de concerts, pour avoir un événement qui puisse se concilier avec leur programmation et notamment avec leur politique de partenariat et de mécénat. Nous avons, c'est vrai, vu le visuel lundi, mais nous avons l'occasion aujourd'hui d'aller un peu plus loin que le visuel. Je voudrais rappeler que nous avons pu... Je pense travailler à l'interne sur cette question. Il y a eu 3 réunions de la conférence des maires, un groupe d'attractivité constitué à l'initiative du président avec des élus des différents groupes de cette assemblée volontaire. La commission attractivité à 2 reprises a travaillé sur le sujet. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est que près de 150 personnes issues du monde économique, du monde associatif, culturel, sportif, issues de l'université, des laboratoires de recherche, ont travaillé avec notre responsable du marketing territorial à l'élaboration de cette campagne. Elle a conduit 150 entretiens individuels sur l'année 2017-2018, puis ce groupe s'est mis au travail de manière collégiale. Il a d'ailleurs été réuni à 3 reprises en assemblée plénière, et je veux remercier Mathieu Dapp du travail d'animation qu'il a réalisé. Dans quel état d'esprit sommes-nous? Vous l'avez compris, l'état d'esprit à partir d'une marque, Nancy, votre place est ici, d'avoir une signature et d'avoir une campagne qui nous permette, par 4 grands axes, d'asseoir l'image de notre territoire. Le premier grand axe, c'est d'abord l'achat d'espace, une campagne à l'automne, il faudra revenir en 2019, s'inscrire dans la durée. Le deuxième axe, c'est bien sûr une présence sur les réseaux sociaux, et celle-là, elle est permanente en dehors des campagnes occasionnelles d'achat d'espace. Le troisième axe, c'est la présence sur les salons. Ça aussi, nous en avons parlé en assemblée, et puisque nous avons validé, bien sûr, l'engagement financier de notre collectivité pour être présent dans des grands salons, le salon du patrimoine, le MAPIC, pour les salons, ou le CIMI, pour les salons qui jalonnent les mois à venir jusque l'année 2019. Cette présence dans les salons, elle permet évidemment de parler à des réseaux français, européens, internationaux, importants sur le plan économique. Et puis, nous ciblons des publics, bien sûr. Quatrième objectif, c'est cibler les publics, avec 4 publics ciblés. D'abord, les entrepreneurs et les investisseurs, pour que nous puissions, à côté de la ressource économique de la métropole et de la région, faire venir des opérateurs économiques qui s'installent à Nancy et y développent leurs affaires. Deuxième public, les résidents. Voilà, c'est une ville où il fait bon vivre. La campagne de marketing prend appui aussi sur cet art de vivre nancéen. Et donc, c'est un objectif que d'accueillir plus de résidents. Troisième cible, évidemment, les étudiants, en partenariat complet avec l'université. Le nombre d'étudiants grandit à Nancy. Je vous rappelle que en 2014, on annonçait entre 47 et 48 000 étudiants. Aujourd'hui, on en a près de 53 000. Donc, c'est un vrai public sur lequel nous marquons des points. Et puis, bien sûr, les touristes, les efforts que nous faisons dans le tourisme d'affaires, Pierre, autour de la SPL Grand Nancy Congrès Événement, les efforts que nous faisons dans le tourisme de loisirs, je pense évidemment au projet thermal, montrent que cette cible est clairement préparée. Nous allons avoir cette campagne de communication qui va se dérouler sur le mois d'octobre, se poursuivre éventuellement sur novembre. Nous aurons l'occasion évidemment de proposer d'autres temps de campagne avec un programme d'action triennal. Je terminerai sur l'état d'esprit de la démarche pour finir mon propos. L'objectif est évidemment que cette démarche ne soit pas celle de la métropole. Voilà. Si ça apparaît comme la démarche de la seule métropole, nous aurons manqué au moins la moitié de l'objectif. L'idée, c'est que cette démarche soit celle des métropolitains, voilà, de ceux qui y habitent, de ceux qui y travaillent, de ceux qui font la vitalité du territoire du Grand Nancy. Dès le début, on a su associer l'université, le monde de la santé, le monde économique, des artistes, des responsables d'institutions ou d'associations culturelles, les clubs sportifs professionnels, le tissu sportif amateur. Et évidemment que nous devons rester dans une logique de mobilisation. La démarche des ambassadeurs qu'on va lancer en janvier prochain a pour but de faire en sorte que tous ceux qui ont une part de décision dans la vie sociale, économique, culturelle, sportive, universitaire de la cité, puissent porter avec nous, pas seulement la marque, mais aussi la démarche d'attractivité. Et puis, bien sûr, un travail qui sera lancé aussi avec l'université pour que les étudiants diplômés de notre université puissent rester des ambassadeurs, quel que soit le lieu où plus tard ils travaillent ou exercent leurs engagements professionnels et sociaux. Ça me paraît quelque chose de fondamental d'insister sur ce point. Moi, ce qui m'a marqué, ce sera la fin de mon propos, lorsque nous avons présenté le visuel « Nancy, votre place est ici » au chapiteau de la Pépinière, au Magic Mirror de la Pépinière, c'est la volonté des acteurs présents de porter avec nous la campagne et de se sentir aussi responsables d'elle que peuvent l'être les élus métropolitains. Et c'est évidemment dans cet esprit-là que nous aurons l'occasion, en novembre prochain, d'examiner le programme triennal d'action qui vous sera proposé, puisque tous les grands territoires se sont inscrits dans la durée, et si nous voulons des résultats, il faut que nous le fassions aussi. Je voudrais terminer mon propos simplement en rappelant que pour l'instant, les sommes consacrées à la campagne d'attractivité et à l'action d'attractivité sont mesurées. La campagne, c'est 170 000 euros sur un budget total pour 2018 de 460 000 euros. C'est la moitié du budget consacré à l'attractivité par les collectivités messines. C'est 7 fois moins que ce que peut consacrer Lyon à sa politique d'attractivité. Voilà. Voilà ce que je veux dire, Monsieur le Président, pour faire un point sur cette démarche.
Des observations, Monsieur le Président.
bien. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais faire quelques remarques dans ce débat autour de la stratégie de marketing territorial et d'attractivité du Grand Nancy. Je voudrais, malgré la réponse qui vient d'être apportée par Laurent Hénard, appuyer le propos liminaire de Shaïnès Khirouni pour dire que nous regrettions de nouveau que la présentation de la campagne cette semaine ait précédé ce débat et ait précédé globalement la définition de nos orientations en la matière. Et je crois que le seul recrutement au mois de mars 2018 d'une agence de communication ne peut suffire comme explication. Je veux juste, sans trop m'attarder là-dessus, mais dire que quand dans le corps de la communication que nous avons tous sous les yeux, il est écrit, je cite, que les rencontres qui se sont tenues avec les acteurs du territoire, dont Laurent Hénard vient de parler, ont confirmé nos orientations, alors que vous nous invitez le 23 novembre prochain à voter ces mêmes orientations, vous voyez bien là qu'il y a un petit hiatus dans le calendrier. De la même manière, Monsieur le Président, vous savez faire, en début de chaque conseil, presque à chaque fois, de longues communications sur un certain nombre de sujets. On aurait quand même pu largement imaginer que dans les conseils qui ont précédé celui-ci, vous eussiez consacré un temps à cette présentation. Enfin bon, passons. Je voudrais faire, sur ce débat point d'étape, plusieurs remarques. La première, c'est que ce débat, il porte, si j'ai bien compris, sur la stratégie d'attractivité et de marketing territorial du Grand Nancy. Je note qu'à ce stade, en attendant la suite des débats, mais c'est aussi une invitation peut-être aussi à approfondir ce point, on parle surtout de marketing territorial et pas encore totalement d'attractivité. Je crois que cet équilibre-là devra être trouvé parce qu'une campagne de communication, sur laquelle je veux revenir dans un instant, ne fait pas toute une stratégie d'attractivité. Je ne dis pas cela comme une critique parce que j'imagine que ce point de vue-là peut être largement partagé et qu'il nous faudra aller bien au-delà que la simple production de quelques visuels. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est le fait que nous engagions cette stratégie de manière bien trop tardive et que nous avons en la matière, du coup, un besoin d'accélérer largement ce travail. Chacun a en tête ici la campagne qui avait été lancée à l'occasion de la mise en service du TGV Est, I Love Nancy, qui est une campagne qui avait été lancée en juin 2007, il y a maintenant plus de 11 ans. Je voudrais aussi rappeler que les termes de la délibération créant la SPL Grand Nancy Congrès Événement en novembre 2011, il y a maintenant 7 ans, précisaient, je cite, que le centre des congrès était amené à être l'élément phare de la stratégie de marketing territorial et de rayonnement de l'agglomération. Voilà 7 ans. Vous considérez donc, je pense sans difficulté, que certes parfois le temps long permet de maturer les choses, mais que à l'heure d'une concurrence extrêmement vive entre les territoires, il convient maintenant d'accélérer largement le tempo. La troisième remarque que je veux faire est celle du diagnostic. La métropole a commandé, je crois, plusieurs études sur ce sujet-là. Je regrette que peut-être nous n'en ayons pas une connaissance plus approfondie à ce stade. Peut-être que cela peut être partagé dans les jours ou les semaines qui viennent. J'ai bien noté que quelques lignes de diagnostic figuraient dans le projet métropolitain, mais ça me paraît être à ce stade assez trop peu lacunaire, en l'occurrence. Et de la même manière, il me semble important de fixer dès maintenant des critères d'évaluation de cette stratégie. Parce que finalement, la campagne I Love Nancy, elle était séduisante dans son graphisme, mais a-t-elle réellement porté ses fruits ? Eh bien, moi, à ce stade, à part avoir quelques impressions subjectives, je ne saurais pas dire si cette campagne a porté ses fruits. Et donc, il importe que soient fixés très vite et dès le départ ces critères d'évaluation pour que nous soyons pleinement efficaces. Le quatrième point, je vais l'évoquer très vite, mais Laurent Hénard l'a évoqué, c'est la cible géographique de cette stratégie. Aujourd'hui, la concurrence est forte à toutes les échelles, et y compris à l'échelle du sillon lorrain, Monsieur le Président. Je sais, et je trouve que c'est un élément positif, que le sillon lorrain assure une présence commune sur certains salons professionnels. C'est une avancée notable. Aujourd'hui, il faut aller plus loin parce que, malgré cela, cela n'empêche pas que, par exemple, sur le tourisme d'affaires, s'engage sans doute entre nous une vive concurrence avec l'ouverture, il y a quelques semaines, du centre Robert Schuman. Et ma conclusion, c'est mon cinquième point, c'est les moyens. Cette campagne qui a été lancée cette semaine, aussi séduisante soit-elle graphiquement, je veux bien ici largement le reconnaître, ne bénéficie pas, à notre sens, de moyens suffisants. Et on ne pourra pas se contenter, compte tenu des enjeux, d'un seul succès d'estime. Et ma dernière question, en quelque sorte, porte sur les moyens humains aussi dédiés à cette stratégie-là. Aujourd'hui, nous avons d'un côté Scalen, historiquement l'agence d'urbanisme, qui porte en son sein un service dédié à l'attractivité, une dizaine de personnes, je crois. Et puis, nous avons la SPL, Grand Nancy Congrès Événements, qui se renforce et qui joue aussi un rôle sur ce point de vue-là. Comment ces deux institutions vont-elles coordonner leurs efforts? Ne faudrait-il pas plutôt une agence dédiée uniquement à l'attractivité économique de notre territoire, plutôt que de diviser nos forces qui ne sont pas déjà démesurées? Voilà, je vous remercie de votre attention pour ces quelques points et contributions au débat.
Merci, Monsieur Donati. Brièvement, parce que on dépasse les horaires, hein, les uns et les autres.
Alors, en complément de ce que vient de dire Monsieur Masson, un des objectifs de cette campagne, il me semble, c'est de faire venir des emplois à Nancy. Traditionnellement, je dirais même presque historiquement, on avait coutume de dire à Metz les emplois industriels, à Nancy, ou tout au moins dans Grand Nancy, les grands services de l'État. Or, ces emplois grands services de l'État sont aujourd'hui mal en point, puisque nous savons malheureusement toutes les difficultés que connaît le CHU et les désirs ou les souhaits de l'État de vouloir réduire le nombre d'emplois. Nous savons les attaques qui sont faites actuellement sur les grands organismes nationaux de prévention que nous avons à Brabois, etc., etc. Donc on risque à l'avenir d'avoir quelques soucis de ce côté-là, sans avoir en même temps essayé de reconquérir les emplois industriels. Et ceci est particulièrement, je dirais, les emplois intermédiaires, parce que certes, nous avons des emplois pour des personnes très diplômées, mais malheureusement, dans nos quartiers, il y a aussi beaucoup de jeunes gens qui ont besoin d'emplois intermédiaires, en fait. Or, là, je me réfère à un article très récent de l'Est républicain, et je cite très rapidement, 15 grands investissements industriels recensés en France, dont 6 en Grand Est, soit 1 milliard d'euros investis, qui, en Lorraine, se concentrent, en Moselle et dans les Vosges. Rien dans notre aire géographique. Donc, je me demande si il va falloir faire très attention sur la façon de mener notre campagne.
Bien, ben, il faudrait monter aux affaires au niveau national, Monsieur le maire adjoint de Vendeuvre. Quelques remarques.
Oui, madame.
Oui, madame. Ah, voilà. Une grande serviteuse de l'intérêt et de l'attractivité, c'est bien ça. On parle enfin de vous, madame, dans les débats. Allez-y, vous avez la parole.
Je pense que votre remarque est très déplacée, monsieur le président.
Elle est reconnaissante.
Alors justement, à propos de l'attractivité, je ne comptais pas intervenir. C'était prévu que j'intervienne sur le CHU, mais on en a largement débattu. Je voulais juste dire, puisqu'on a parlé de santé, d'attractivité, de thermalisme, que bien sûr, je rejoins les observations qui ont été faites sur la nécessité ou le bien-être du thermalisme. Mais puisqu'il y a eu une intervention télécommandée, je voulais dire que oui, je suis pour le thermalisme, mais au profit des habitants et pas au profit de simples promoteurs d'immobilier. Vous savez très bien que le recours qui a été fait n'est pas sur le principe du thermalisme, mais sur le coût et le montage financier, et notamment la subvention d'investissement de 25 millions d'euros qui a été forfaitaire globale pendant 3 ans, qui n'avait pas été prise en compte dans le cahier des charges que nous avions décidé lors du Conseil du 29 avril 2016. Cette délibération qui lançait la procédure de délégation de services publics s'était engagée à ce que le Grand Nancy assure sans coût supplémentaire cette opération qui était à l'époque estimée à 50 millions d'euros. Donc voilà, je voulais quand même insister sur le fait que n'était pas remis en cause le thermalisme, mais le montage qui en est fait et les intérêts financiers qui sont derrière ce montage.
Merci. On vous a pour une part répondu. J'ai proposé aussi de rencontrer les...
Répondu en acceptant.
Bon. De rencontrer les pétitionnaires, parce qu'il y a tellement, je dirais, de fake news, comme on dit maintenant, dans ce qui est diffusé sur ces questions, que j'appelle l'ensemble des élus, des passionnés de ces questions, à participer, à élaborer ensemble une démarche très constructive et de communication qui tordent le cou un petit peu à un certain nombre de choses dont vous avez pour une part parlé à l'instant. Alors, sur ce sujet, Laurent, tu veux redire un mot ou...
Oui. Oui, je voudrais répondre à Monsieur Masson. D'abord, sur la forme, rappeler que, je l'ai dit, hein, le groupe de travail sur l'attractivité était ouvert à des élus des différentes sensibilités de cette Assemblée, et notamment pour votre groupe, à Messieurs Carpena, Kling et vous-même. Ce groupe a travaillé, d'ailleurs, sur les résultats des enquêtes qui ont pu être faites, mais qui sont à votre disposition, bien sûr, si vous souhaitez pouvoir les étudier plus que la synthèse qui en est retracée dans, notamment, le projet métropolitain. Sur les questions que vous posez, parce que je partage au moins deux de vos sentiments. Le premier, c'est que il faut accélérer. Et le deuxième, c'est qu'il faut, au moment où les politiques économiques changent sous l'impulsion de la loi Nautré dans le plan local, il faut aussi répartir plus clairement les rôles entre plusieurs opérateurs. Je voudrais simplement, à chaque fois... me permettre de compléter votre sentiment et donc de compliquer peut-être un peu votre lecture. Un, sur le fait qu'il faut accélérer. Oui, bien sûr, mais il faut aussi s'inscrire dans la durée. Bon, c'est l'objectif de la délibération qui vous sera proposée en novembre, c'est de montrer qu'on accélère, c'est de montrer aussi qu'on est sur un plan d'action triennal. Parce que l'évaluation que vous appelez de vos voeux, et vous avez raison, il faudra la faire, n'a de sens que si, bien sûr, l'action de promotion se répète, est constante, utilise les mêmes référentiels et s'inscrit donc sur une durée de plusieurs années, de nature en tout cas à ce qu'on puisse évaluer les choses. Ce n'est pas un mois et demi de campagne de communication qui vont changer les repères, améliorer substantiellement une image et bouger des lignes. Pour cela, d'ailleurs, vous avez raison de le souligner, la métropole aura à se positionner sur la jauge des moyens. Il n'y avait aucune arrière-pensée dans le fait que j'ai rappelé que le budget que nous consacrons ici à la métropole de Nancy est la moitié de celui consacré par les collectivités messines. Mais c'est une réalité que quand nous nous comparons aux autres métropoles, le budget de 2018 n'est pas à la hauteur, y compris de la moyenne des autres métropoles françaises dans leur politique de marketing territorial. Deuxième sujet que vous avez évoqué, les opérateurs. Bon, je pense qu'il y en a trois sur la table, et dans toutes les grandes métropoles, il y en a trois sur la table. Un, vous avez un opérateur dit destination. Le choix qui a été fait à Nancy est un choix, je crois, très clair. C'est d'avoir un seul opérateur pour toutes les facettes de la destination Nancy. C'est-à-dire que l'opérateur gère le centre de congrès, il gère le parc des expositions, il gère le bureau de l'événementiel, qui donc n'accompagne pas que les événements qui se tiennent au centre de congrès ou au parc des expositions, mais les événements qui se tiennent dans la zone d'emploi. Et il nous arrive parfois, d'ailleurs, d'accompagner des événements qui, en tout ou partie, se tiennent en dehors du territoire administratif de la métropole, mais qui, portés par des acteurs métropolitains, nous paraissent mériter notre soutien, ou en tout cas notre bienveillance. Il nous arrive parfois d'être présents sur des choses qui se déroulent au Prémontré, à Pont-à-Mousson, ou à Lunéville, par exemple. Nous y avons ajouté, vous le savez, l'office de tourisme, ce qui sera opérationnel au 1er janvier 2019. Donc là, nous avons, par rapport aux autres métropoles, je pense sincèrement, une longueur d'avance. Peu de métropoles sont allées aussi loin dans le fait d'avoir un seul opérateur sur la politique destination qui couvre l'événementiel, le tourisme d'affaires, le tourisme de loisirs, qui travaille avec les professionnels, on le verra tout à l'heure quand on parlera des dotations filières, à la structuration globale du secteur, puisque nous travaillons sur l'hébergement avec les professionnels de l'hôtellerie, nous engageons avec les associations de commerçants des choses sur le shopping, entre guillemets, comme support au tourisme d'affaires et de loisirs, et tout ce qui touche à la restauration et aux brasseries. Deuxième sujet, l'agence d'attractivité et de développement, cette fois-ci dans le démarchage économique. Alors là, vous savez la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une situation où le choix envisagé aujourd'hui par la métropole et qui est en débat avec la région, c'est que nous ayons un même opérateur pour l'attractivité économique et pour le développement économique. Où se situe la ligne de partage? On le sait tous, l'attractivité économique, c'est chercher des groupes, des réseaux d'entreprises qui viennent s'installer. C'est ce qui, par exemple, se fait au travers des grands salons que j'évoquais pour partie, notamment, je pense, au CIMI. Et puis, l'agence de développement économique, elle est là pour permettre aux entrepreneurs, qu'ils soient issus du territoire ou qu'ils viennent s'installer, de franchir leurs étapes de croissance. Des questions de locaux, des questions de brevets, des questions de renfort de fonds propres, des questions de mise en contact avec des partenaires. Alors il y a des territoires qui ont séparé les deux, qui ont dit ben, l'attractivité économique va avec le marketing territorial et la promotion de la marque. D'autres territoires ont groupé les deux. Au jour d'aujourd'hui, Scalen est sur les deux missions. C'est à la fois un opérateur d'attractivité, puisque c'est par exemple cette agence qui porte notre politique de présence dans les salons avec le service économique de la métropole. C'est aussi un opérateur qui travaille sur l'accompagnement du parcours économique des entrepreneurs, quelles que soient les filières, quelle que soit l'origine. Alors pourquoi ce choix initial? Parce que Scalen, au départ, c'est évidemment avant tout une agence d'urbanisme qui donc, par cette compétence d'urbanisme, pouvait traiter les problèmes d'implantation, de déménagement, de mobilité, les problèmes d'infrastructure, les problèmes de raccordement à des réseaux de transport, à des réseaux dématérialisés de fibres. Bref, une bonne partie des questions que posaient les entrepreneurs pouvaient être pris en charge facilement par l'expertise et le savoir-faire issus de l'activité agence d'urbanisme. Est-ce que ce choix doit se confirmer? C'est le débat que nous avons aujourd'hui avec la région Grand Est, puisque clairement, dans le cadre du contrat métropolitain passé avec la région, dans le cadre du POC et de sa déclinaison sur notre territoire, il faut que nous retenions un opérateur. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que vous voyez dans ma réponse que de toute façon, il n'y aura jamais un seul opérateur d'attractivité qui paraîtra complet. Il manquera toujours un bras armé dans le tourisme, il manquera toujours un bras armé dans le développement économique. Et être bon sur l'attractivité économique, c'est pas seulement bien vendre, c'est bien accueillir et bien garder. Si on fait venir pour que les gens se sentent finalement mal reçus et qu'ils redéménagent 3, 4 ou 5 ans après, ce qu'on a connu dans notre région, à l'époque du soutien aux investissements internationaux subventionnés, où une fois les subventions d'État terminées, les entreprises repartaient vers d'autres cieux, on n'aura pas réussi l'objectif. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui de la politique globale d'attractivité. Voilà aussi quel sera, je pense, le contenu de notre débat de novembre. Je voudrais simplement, pour terminer mon propos, Monsieur Masson, dire que là, il s'agissait clairement, vous l'avez vu, d'une campagne de marketing sur laquelle nous voulions rendre compte. C'est une communication. Donc dans le champ général de l'attractivité, il s'agissait de traiter le sujet marketing territorial. Les remarques que vous avez faites, dans grande partie, je les partage. Dans votre volonté d'accélération, je devine qu'il y aura bien sûr la compréhension du pourquoi. À 3 jours près, on a présenté aux Lorrains la marque avant qu'elle puisse être visualisée en conseil de métropole.
Bien. Sur quelques mots, d'abord, c'est un débat qui va de pair avec le calendrier du projet métropolitain. On est donc bien sur une approche cohérente. Communiquer sur une métropole, sur son activité, sans être phasé avec le projet métropolitain. Aujourd'hui, ce qui donne le feu vert aujourd'hui, ce n'est pas telle ou telle délibération dans cette Assemblée, c'est la cohérence avec le projet métropolitain. C'est sur ces bases aujourd'hui que nous devons avancer et gérer la cohérence. Alors tout le monde s'intéresse à l'attractivité, tous les départements, parce que comme ils n'ont plus de compétences économiques, ils essayent de tourner la difficulté en créant une agence d'attractivité. Alors, je ne sais pas ce que ça va nous apporter. Ce n'est pas encore le cas en Meurthe-et-Moselle. Le président de la Meurthe-et-Moselle m'a l'air plus prudent sur ce sujet. Mais en tout cas, tout le monde est dans l'attractivité. Et je voudrais d'ailleurs dire que la région se doit de l'être aussi. mais Laurent a commencé à imaginer ce que pourrait être la cohérence économique et d'attractivité. Je pense que le président de la région est plutôt sur une sorte de 6 têtes de réseau dans le Grand Est, 2 en Alsace, 2 en Lorraine, pour peu que le sud de la Lorraine, avec les Vosges et avec d'autres partenaires, puisse trouver, et notamment les chambres de commerce et d'industrie, pour ce qu'il va en rester. Mais aujourd'hui, la notion d'attractivité sur une région comme la nôtre, le Grand Est, est un élément de référence très intéressant. Quant au débat sur le centre de congrès, M. Hénard a rappelé, je dirais, avec Pierre Boileau, la cohérence sur les synergies qu'on a organisées. Mais en tout cas, quand je vois vous parler du développement du centre de congrès à Metz, je veux bien, mais je suis comme Diogène avec ma lanterne pendant longtemps à Nancy pour financer le centre de congrès. Je n'ai trouvé ni le département de l'époque, ni la région. Et c'est seule la métropole qui ont payé les 65 millions et quelques du centre des congrès. Alors, vous comprenez les leçons sur l'attractivité, le rôle du centre des congrès aujourd'hui, et il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà, je mets aux voix. Y a-t-il... Il n'y a pas de vote, c'est déjà gagné. Stratégie de développement économique, filière stratégique, convention d'application 2018, monsieur le président.
Subvention à la Seine-Marie-Frocarie, non ?
Non, il y a raison. Filière stratégique, et seulement après la...
J'ai rien dit.
Bien. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vous rappelle que nous avons défini des filières sur lesquelles on avance avec les acteurs sur leur structuration, c'est-à-dire en clair des rendez-vous réguliers, des échanges de bonnes pratiques, des projets mutualisés et bien sûr une gestion collective par les opérateurs de la filière économique de la question de leur compétitivité, de leur attractivité. Concernant le bâtiment, c'est la Fédération du BTP qui a été retenue comme animateur de filière. Et le choix, évidemment, se porte sur l'innovation appliquée au BTP, le BIM, le défi de la transition écologique et de la transition énergétique. C'est sur ces sujets-là qu'aujourd'hui, l'animation de filière se concentre, avec un rendez-vous appelé BTP Lab, qui sera organisé au début de décembre de cette année. Et c'est sur cet axe, aujourd'hui, que la Fédération BTP avance avec les professionnels du secteur. Pour ce qui concerne les industries culturelles et créatives, je vous rappelle que c'est Artem Nancy et Artem Entreprises qui font l'animation de filières des industries culturelles et créatives. Leur choix s'est porté sur un événement vitrine, je dirais, c'est-à-dire un événement qui puisse montrer les savoir-faire au travers de l'économie et des entreprises, mais aussi, bien sûr, au travers de l'université et des labos de recherche, autour du thème du design largement conçu, avec la volonté de bâtir en 3 ans un événement qui pourrait être une biennale du design qui serait d'ailleurs articulée avec celle de Saint-Étienne, puisque nous serions sur les années creuses de la biennale de design de Saint-Étienne. Elle est en année impair, nous serions en année pair. L'objectif est de réunir les professionnels, les acteurs de la filière ici à Nancy en novembre. La date retenue est le 13 novembre pour une journée de travail, d'avoir un premier événement qui sera porté au printemps 19 pour qu'ensuite, au printemps 20, l'événement se renouvelle sous une plus grande ampleur. La volonté s'est exprimée, et ça fera la transition avec le cluster suivant, avec la filière suivante, de favoriser les passerelles entre industrie culturelle et créative, design et numérique. Et donc, c'est avec la filière numérique que cet événement se prépare. Pour ce qui concerne la filière numérique, là aussi, l'événement principal porté par l'association Nancy Numérique, qui est forte d'une centaine de membres, de tailles différentes, puisqu'il y a des TPE comme des entreprises de quelques centaines de salariés, de nature différente aussi, puisqu'il n'y a pas que des entreprises, il y a aussi des écoles, des filières facultaires et des laboratoires de recherche de notre université. Leur idée est principalement d'avoir un temps fort, qui est l'Académie Digitale, qui permet des rencontres professionnelles, des échanges de bonnes pratiques et l'invitation de grands témoins et personnalités extérieures. Sur banque, finance, assurance et droits, L'orientation retenue par... Alors, c'est Aprofine, hein, qui est l'animateur de filière, Aprofine, qui est notamment l'opérateur qui gère le centre de formation au métier de la banque et de la finance et le CFA Banque Finance de l'université. Aujourd'hui, Aprofine a avancé sur une piste qui est de pousser l'échelle, si je puis dire, au niveau du sillon Lorrain, puisque l'idée est de voir si on peut bâtir pas seulement une marque, pas seulement un concept, mais un programme d'action, Lorraine Place Financière, qui permette clairement entre Paris et Strasbourg d'affirmer la présence de savoir-faire, de capacité de formation, de préserver et développer nos emplois. Ce sujet est porté avec l'organisation d'événements en alternance à Metz, à Nancy, mais aussi à Épinal et à Thionville. Enfin, je terminerai par le tourisme d'affaires. C'est la société Grand Nancy Congrès Événements, hein, qui est l'animateur de filières de tourisme dans notre agglomération. Trois sujets concrets sont développés en 2018 et qui seront prolongés en 2019. Je les ai d'ailleurs en partie évoqués. La question de l'hébergement, au travers notamment du travail avec l'hôtellerie, montée en gamme, investissement, évolution de l'offre dans son contenu et sa localisation. Deuxième sujet, la coordination de l'ensemble des opérateurs sur les congrès de rang national, européen et international. On a fait, je crois, un bel événement avec le Centre des jeunes dirigeants. Il y a d'autres événements qui se profilent, la FNSEA en 2019, et puis nous sommes plusieurs à avoir posé pour le congrès national des sapeurs-pompiers. Donc on voit comment il faut qu'on puisse garder cette capacité à accueillir des événements nationaux et internationaux. Enfin, dernier élément de travail pour la filière tourisme, c'est la charte d'accueil des grands événements qui relie communes, métropoles, grands opérateurs, pour vraiment concevoir un accueil global des événements, pas seulement les modalités tarifaires, mais aussi les passerelles avec les institutions culturelles, avec d'autres lieux qui ne sont ni le centre de congrès, ni le parc des expositions, voir comment on peut avoir une présence dans la ville, dans les espaces publics, voir comment on peut aussi, bien sûr, connecter les choses avec toute l'offre que fait Nancy Tourisme, plutôt sur du tourisme de loisirs.
Parfait. Pas de remarques, pas d'opposition, adopté. Même s'il n'y a pas de vote, c'est parfait.
Oui, il y a un vote, André. Il y a un vote.
Subvention à la SEM Henri Poincaré, Pierre Boileau.
Il faudrait voter. Oui, il y avait un vote. Hein.
Il y avait, eh bien, il est fait.
Voilà. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues,
si je peux... Ah, pardon. Voilà. Voilà, merci. Le Conseil avait délibéré en février 2018 pour créer la SEM Henri Poincaré et je rappelle que la métropole détient 37,73% des parts. Il y a eu ensuite l'Assemblée constitutive, puis des conseils d'administration. Le directeur est maintenant nommé, ou recruté plus exactement, et le démarrage de la SEM est en cours avec un plan d'action. Et à ce titre, il est proposé de donner une subvention de 50 000 euros pour démarrer les travaux et permettre à cette SEM de prendre son envol, comme elle doit le faire rapidement.
Merci. Pas d'opposition, d'abstention adoptée. François Werner, aide économique aux entreprises, ou Laurent Hénard, je ne sais pas comment vous êtes. Allez, à cheval. Hop.
Donc là, nous avons une série de dotations à des opérateurs économiques, d'abord des entreprises. Là, l'objet de l'aide de la métropole, c'est de déclencher d'autres concours et de boucler des montages de dossiers, concours de la région, concours d'opérateurs proches de l'État, comme la BPI. Vous trouverez donc Netlux, dont on vient récemment de consacrer l'installation sur la friche Alstom. Vous trouverez donc Bioli, qui est en plein essor dans le domaine des biotech, et vous trouverez aussi une entreprise qu'on connaît bien, qui est CIMI. Enfin, deux réseaux d'entreprises ou d'accueil d'entreprises plutôt et d'accompagnement sont ciblés par les subventionnements. Entrepreneuriat féminin, je pense que le titre suffit à expliquer ce que nous souhaitons soutenir par la dotation métropolitaine. Et puis le PIL, donc le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine, avec lequel nous travaillons beaucoup. Je rappelle que l'université a fait de l'idée de l'entrepreneuriat un de ses facteurs différenciants et d'attractivité dans la compétition universitaire actuelle.
Pas de remarques, pas d'opposition adoptée. Alors, nous en étions où ? Monsieur Hénard, toujours. Convention de partenariat, subvention au bureau des tournages de l'Agence culturelle Grand Est. Allez,
On avance fort et vite. Et
alors, je vous rappelle que plusieurs grands films, hein, Une femme tranquille, Les âmes grises, Il y a longtemps que je t'aime, ont montré des images de Nancy par le passé. Le tournage est une activité économique importante. Une étude du CNC montre que pour un euro public investi dans un tournage, les retombées économiques sur le territoire qui fait l'investissement sont d'un peu plus de 6 euros. Et je rappellerai que le secteur de l'audiovisuel et du tournage cinématographique représente le même chiffre d'affaires annuel que l'industrie automobile. La région a structuré la politique de soutien en tournage par deux outils principalement. D'abord, un fonds d'intervention qui permet de financer à côté du CNC la création cinématographique et audiovisuelle. Puis de l'autre côté, un bureau des tournages qui facilite sur le plan administratif, logistique et matériel l'organisation des tournages. Notre métropole va s'associer à cette démarche. Donc là, nous vous proposons une convention qui permet de participer au fonds de soutien et de faire en sorte que l'agence culturelle de la région qui s'installe au Technopôle Renaissance dans le cadre de la pépinière des industries culturelles et créatives et aussi une activité tournage dont nous serons partenaires, la ville de Nancy et la métropole se partageant les concours à hauteur de 10 000 euros chacune.
Merci. Pas de remarques. Pas d'opposition. Adopté. Territoire à enjeu, Porte Nord, Rive de Meurthe, ZAC des Savelons à Malzéville. Quand est-ce qu'on va en finir avec cette ZAC, qu'elle soit remplie, monsieur le vice-président ?
Alors, c'est une ZAC effectivement ancienne, monsieur le président, 1992. Solorem en assure le portage depuis 1994, 24 hectares, dont un peu plus de la moitié dédié à l'économie. Je rappelle que nous avons pris un peu de retard, mais le maire de Malzéville pourrait l'expliquer mieux que moi, notamment par une implantation qui est aujourd'hui devant les juridictions. La gestion de la ZAC est saine et rigoureuse, puisque le bilan de trésorerie au 31 décembre de 2017 fait apparaître un très léger déficit de trésorerie, un peu plus de 30 000 euros. Et nous avons prévu de renouveler cette ZAC. Donc, quand vous posez la question de sa fin, je dirais que dans la délibération du 17 novembre de 2017, monsieur le président, nous l'avons envisagé pour dans 10 ans, avec une clôture éventuelle envisagée à hauteur d'1,7 million. Mais je pense qu'on peut améliorer ces chiffres pour peu qu'ensemble on puisse reprendre le curseur économie-logement. On en a déjà parlé d'ailleurs avec le maire de Malzéville. Voilà sur cette ZAC.
Parfait. Pas de remarques, pas d'opposition. Avec l'appui enthousiaste du maire de Malzéville. Affaire suivante, ZAC de la ferme Saint-Jacques 2 à Maxéville.
Saint-Jacques 2, départ de l'entreprise Solvay, 440 hectares. Repris en indivision, notre métropole décide en 1989 de créer une ZAC d'une surface de 125 hectares. En fait, cette ZAC, elle se décompose en trois ensembles. Le parc d'activité Saint-Jacques 2 pour un tiers, le Zénith et ses dépendances pour un tiers, une réserve foncière pour être prévoyant vers l'avenir pour un tiers. Deux lots sont encore à commercialiser sur le parc d'activité et nous sommes actuellement en relance pour 12 ans de cette ZAC, avec l'idée, vous en doutez bien, de conduire les études de faisabilité sur les 42 hectares de réserve et de voir comment, à partir de la mobilisation de tout ou partie de ces 42 hectares de réserve, on peut continuer à développer ce site et bien sûr améliorer les balances financières de la ZAC.
Monsieur le maire de Maxéville, vous avez la parole. Éteins la lampe.
Là. Pardon.
Oui, merci, Monsieur le Président. Sur cette zone Saint-Jacques 2, qui, je l'élargis même à l'ensemble de l'activité économique du plateau, mais sur cette zone Saint-Jacques particulièrement, elle a tendance à s'agrandir. Et comme vous le savez, on va avoir de grosses arrivées dans les prochaines années. Je pense à l'installation de Saint-Christophe Automobile autour de l'ancienne usine Azat. Et donc, beaucoup d'emplois arrivent sur cette zone et on peut que s'en féliciter. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on s'interroge sur la question des transports, même si la ligne 2 permet d'avoir un arrêt de ce qu'on appelle de l'autre côté de la passerelle Michael. Mais vu cette zone qui a tendance à s'étaler, et c'est juridique, c'est une très bonne nouvelle, je crois qu'à un moment donné, la question des transports devra être posée.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Ensuite, la zone de Frocourt à Fléville devant Nancy et Oudemont. Clôture des comptes.
Oui, Monsieur le Président. Alors voilà une ZAC exemplaire qui pourrait nous inspirer. Donc celle de Frocourt sur les communes de Fléville et d'Oudemont, puisque nous avons clôturé au 31 juillet 2018 cette ZAC avec un excédent d'€1,3 million. Il reste des terrains à commercialiser dont la recette attendue est du même ordre. Ce qui veut dire que l'excédent final de la ZAC devrait être de l'ordre de €2,6 million. Cette délibération a pour but d'abord de donner quitus à Solorem de la gestion qui a été faite de la ZAC, puisqu'elle est échue, et surtout de reprendre la délibération du 17 novembre 2017 sur un point, qui est de maintenir le statut de ZAC le temps de la commercialisation des derniers terrains.
Parfait. Sous les applaudissements et laudatifs, pas d'opposition, d'abstention, adoptée. Nous arrivons ensuite à François Werner, Grand Nancy Numérique.
Oui, avec une Norentech, étape...
Norentech, Métropole, French Tech, prise à bail, bâtiment Totem.
Oui, avec une étape...
Page 103.
Oui, c'est bon, on y était. Avec une étape importante du processus Norentech, puisque, comme vous le savez, la labellisation suppose la réalisation de bâtiments dits Totem. Alors, un Totem, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qui est un symbole de centralité, et puis c'est quelque chose qui, derrière, a une utilité et qui porte bonheur. Et donc, depuis le début, nous avons identifié une parcelle disponible à proximité immédiate de l'actuel paddock qui a servi de totem provisoire et qui nous permettra d'agrandir les espaces Norentech pour pouvoir héberger dans des degrés de maturité différents un certain nombre de start-up numériques, pour pouvoir assurer l'événementiel et pour pouvoir assurer les espaces qu'on appelle aujourd'hui de coworking, enfin bref, tous ces espaces de rencontres qui permettent la créativité et la vraie innovation, puisque la seule vraie innovation, c'est celle qui sort des cerveaux et pas celle qui sort des machines. Et donc, nous bouclons ce financement que nous avons voulu, qui a pris un peu plus de temps que certains autres, notamment par exemple Blida à Metz, parce que depuis le départ, notre ambition sur ce sujet, et nous la poursuivons, c'est de pouvoir mener ce projet très étroitement avec le privé, c'est d'y consacrer le moins d'argent public possible, c'est-à-dire de n'utiliser l'argent public que pour des missions de service public et pour le reste de faire en sorte que l'écosystème puisse trouver son propre dispositif de développement. Ce qui vous est proposé là, c'est bien ça, puisque sur un bâtiment qui fera 3 niveaux, nous avons commercialisé 2 niveaux et nous vous proposons de prendre à bail en VFA une surface de 1100 m² qui est le rez-de-chaussée de ce bâtiment. Rez-de-chaussée que nous n'allons pas conserver pour nous-mêmes. Nous allons en remettre en location 80%, un peu plus de 900 m², pour ne conserver que les 20% restants qui, là, seront un vrai espace public de Norentech. Le promoteur, c'est Adim Est. Les montants sont indiqués dans la délibération. Et si vous voulez bien, en effet, délibérer, on pourra faire partir ce bâtiment de 2612 m² de surface utile au tout début de l'année 2019 pour réaliser, je crois, un formidable investissement sur un territoire et dans un quartier qui, avec les industries culturelles et créatives à proximité, avec beaucoup d'autres éléments de dynamisme et d'innovation numérique, sera le vrai signal du numérique à Nancy.
Merci. Pas de remarques, pas d'opposition. Adopté. Madame Leroy, 3 délibérations sur la culture. D'abord, tarification de nouveaux produits proposés à la vente dans les 3 musées. C'est
oui,
comme si c'était fait.
Oui, Monsieur le Président, tout est dit. C'est une délibération qui vient en complément de la principale qui est validée chaque année avec le budget général, pardon, et qui s'applique aux nouveaux produits dans les 3 musées et l'augmentation du pass transfrontalier.
Merci. Pas de remarques, pas d'opposition adoptée. Conservatoire du Grand Nancy, demande de subvention de fonctionnement au ministère de la Culture et de la Communication.
C'est un renouvellement de demande de subvention rituelle qui repose sur la prise en compte d'axes de développement qui correspondent exactement au projet d'établissement du conservatoire à rayonnement régional du Grand Nancy. Il convient donc de renouveler notre demande de subvention de fonctionnement pour l'établissement.
Parfait. Pas de remarques, pas d'opposition. Adopté. Affaire suivante.
L'affaire suivante concerne le muséum aquarium et les opérations de restructuration de la zone d'accueil, la création d'un espace boutique et d'une salle pédagogique. Ils nécessiteront la fermeture de l'établissement pour une durée estimée à environ 5 mois. L'établissement pourrait rouvrir ses portes pour la saison estivale 2019 avec une grande exposition. Pour un budget global de l'opération estimé à 360 000 euros, il vous est demandé d'approuver les demandes de subvention relatives à cette opération à la DRAC à hauteur de 15%, à la région Grand Est également pour 15%. À noter que les équipements de la salle pédagogique font l'objet d'un financement FEDER acquis pour 60%.
Merci. Pas de remarques, pas d'opposition. Adopté. Éric Pincelfini va nous rejoindre, donc on reviendra sur sa délibération. François Werner, convention constitutive du GIP Artem.
Oui, il s'agit là d'une évolution naturelle, puisque Artem a d'abord existé dans les têtes, ensuite avec des systèmes souples et particulièrement légers d'associations. Là, les trois écoles concernées éprouvent le besoin d'aller plus loin en créant donc un GIP qui permet de stabiliser durablement l'alliance, qui permet de gérer la marque, tout simplement, d'éviter de la galvauder, de pouvoir développer cette marque à l'international. Et donc, à ce titre, après pas mal de travaux préparatoires, il est apparu nécessaire de créer un groupement d'intérêt public dont il vous est proposé ici de devenir membre. Nous étions membres de l'association Artem Nancy et nous apporterions une contribution statutaire à hauteur de 10 000 euros par an de 2019 à 2021. J'en profite pour préciser que Artem a bénéficié bénéficie déjà d'importants soutiens de la part de la région Grand Est, puisque trois projets d'Artem ont été labellisés au titre du pacte Grandes Écoles.
Merci. Ça continue d'être un dossier phare. Hein. Artem, je peux vous dire que sur le plan national et même au-delà, l'opération produit des effets boule de neige très importants. Pas d'opposition, d'abstention adoptée. Soutien au doctorat, création de 2 prix de thèse.
Oui, l'idée, c'est on fait des choses formidables sur ce territoire et puis on ne sait pas toujours bien les montrer et les valoriser. Nous avons une université qui prend une place tout à fait honorable dans les classements internationaux. Il y a celui de Shanghai qui n'est pas déshonorant pour l'Université de Lorraine et quelques autres qui sont fort intéressants. Cette même université développe un gros travail sur ses doctorants. Les doctorants, c'est quelquefois des gens, ça fait un petit peu peur à l'extérieur. Je pars sous le contrôle de mon collègue Romain Pierronnet, qui est un grand expert de ce discours. L'idée, c'est de montrer que les doctorants font un travail formidable, que les doctorants peuvent être extrêmement utiles au développement du territoire et au développement économique plus généralement. Donc, nous avons prévu de récompenser 2 prix de thèse métropolitains. C'est doté de 1 500 euros, hein, ça ne va pas bien loin, de 2018 à 2020, avec un prix territoire qui sera attribué au docteur qui aura produit une connaissance utile du territoire ou renforçant les compétences d'un laboratoire ou d'une entreprise du territoire dans une de nos filières économiques stratégiques telles que nous les avons définies. Et puis un prix métropolitain, docteur entrepreneur, attribué donc à un docteur qui a conduit un projet d'entrepreneur au sein du PIL, désormais bien connu, le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine, de l'incubateur lorrain ou d'autres structures accompagnant la création d'entreprises. Oui, mais ça fait du bien, il faudra en faire la pub.
Voilà, et puis il faut reprendre son souffle, monsieur le vice-président. C'est une très bonne idée. Et comme monsieur le conseiller métropolitain délégué a été invité à s'associer intellectuellement à cette démarche, je crois, François, si tu en es d'accord, qu'une politique plus active de stage et de thésard, de relations avec l'université pourrait être... On pourrait faire le bilan d'abord de ce qui existe et ensuite voir les secteurs dans lesquels il est possible de confier des missions de courte durée, ou en tout cas avoir une relation humaine appliquée à des jeunes qui sont porteurs de qualifications et qui peuvent, pendant quelques temps, travailler avec nous dans des conditions à déterminer. Donc voilà, monsieur, chargé d'une nouvelle mission. Pas d'opposition, d'abstention adoptée. nous en étions où ? Artem
21, oui.
21. Artem, troisième tranche, protocole transactionnel entre Solorem et la société Le Bras Frère. Pas de problème, François ?
Pas de problème, tout est dans la délibération, vous avez lu avec beaucoup d'attention. Juste pour dire que ça n'a pas été une partie de plaisir avec ce lot et ce prestataire.
Parfait. Vous avez bien défendu les intérêts de la maison. Pas d'opposition, d'abstention, adopté. Développement universitaire, vie étudiante, attribution de subventions.
Même punition, si vous avez lu la précédente, vous avez certainement lu celle-ci aussi. Je pense donc qu'elle vaut d'elle-même.
Merci. Pas d'opposition adoptée. Monsieur Jean-Pierre Urpeau, avec élégance et rapidité. Nouveau projet de renouvellement urbain, convention de cofinancement contractualisée dans le cadre du protocole de préfiguration.
Comme d'habitude, le protocole de préfiguration donc, qui a été signé le 16 janvier 2016 fixe les enjeux et les objectifs du renouvellement urbain de chaque quartier, le programme des études à réaliser et puis l'ingénierie nécessaire pour l'élaboration d'une future convention qui sera signée courant 2019. Alors, dans ce cadre, certaines opérations sous maîtrise d'ouvrage de la métropole sont cofinancé par les villes et les bailleurs. À ce titre, il y a lieu de conclure les conventions d'application entre la métropole et les autres cofinanceurs qui précisent les modalités de leur participation financière. Alors, sur le plateau, deux opérations sont concernées, la mission d'urbanisme confiée à Alexandre Chemetov et associés, et puis la démarche de concertation et de communication. Bon, à chaque fois, vous avez l'assiette subventionnable et le pourcentage de participation des villes et des ou du bailleur. La démarche de concertation et de communication, même chose. Sur le quartier des provinces, deux opérations concernées. La mission d'urbanisme qui est confiée à Albert Amard pour la tranche ferme, avec une assiette subventionnable de 250 000 euros et une participation de chaque cofinanceur à hauteur de 10%. Et puis la démarche de concertation et de communication, assiette de 80 000 euros hors taxes, c'est la ville de Laxou pour 20% de participation. Sur le quartier Haussonville-Nation, une opération concernée, la mission d'urbanisme confiée à Urbita Plus, avec une assiette subventionnable de 150 000 euros et participation de chaque cofinanceur à hauteur de 10% de l'opération. Il vous est demandé donc d'approuver ces 12 conventions de cofinancement.
Merci. C'est un travail minutieux, progressif, méthodique. Pas d'opposition, pas d'adopté. Sur Haussonville, à Nancy, aménagement des espaces extérieurs, phase 2. Passation d'un protocole transactionnel avec la maîtrise d'œuvre. Rapidement, page 148.
Il y avait donc eu une consultation pour le recrutement d'un maître d'œuvre qui avait été approuvé et attribué, avec un montant estimatif initial des travaux de 1 176 339 euros. Après passation de deux avenants représentant une augmentation du marché de 14,9%, la métropole avait notifié à la maîtrise d'œuvre son projet de décompte général pour une somme définitive de 201 531,44 euros. La maîtrise d'œuvre a refusé ce décompte et a présenté une demande de rémunération supplémentaire. Afin d'éviter la saisine de la justice, les parties ont accepté de se rapprocher et d'établir une transaction financière définissant les modalités du règlement. La métropole s'engage à indemniser le groupement à hauteur de 39 095 euros et le groupement de maîtrise d'œuvre s'engage à renoncer à toute réclamation complémentaire.
Merci. Pas de remarques, pas d'opposition adoptée. Projet de cohésion sociale et territoriale, programme d'action complémentaire, Monsieur Urpeau, Madame Jurin, Madame Carraro.
Bon, je vais résumer pour l'ensemble, si vous le voulez bien. Donc, dans le cadre de ce programme d'action complémentaire en lien avec le projet de cohésion sociale territoriale, il est proposé au Conseil de délibérer sur le financement des projets présentés dans la délibération pour un montant global de 64 033 euros. 40 200 euros sur la politique prévention-sécurité, 7 330 sur la politique santé et 16 503 euros sur la politique sport-loisirs-culture, éco-citoyenneté, lien social.
Parfait. Pas de remarques, pas d'opposition. Adopté. Madame Debord. Participation de la métropole à la création de la société anonyme d'économie mixte locale.
Monsieur le Président, mes chers collègues, si on voit que la ville de Nancy a un centre commercial dynamique avec un certain nombre de cellules, notamment, on peut le voir aujourd'hui sur l'ancien Darty, qui sont en train de se recomposer, il reste néanmoins qu'une vacance encore importante se fait jour, et notamment dans les étages des magasins. Cette vacance a plusieurs éléments de cause qui sont liés notamment à des dégradations de biens, des problématiques patrimoniales, mais aussi à une inoccupation qui est liée au fait qu'on ne peut pas avoir des habitants avec une activité tertiaire qui se situe en dessous. Il est apparu nécessaire dans ce contexte de proposer de mettre en place un dispositif permettant de constituer une structure pour acheter, réaménager, revendre des biens commerciaux et leurs étages vacants qui nécessitent des restructurations et adapter au marché aux besoins de l'immobilier. Dans un souci de dynamiser évidemment les cellules commerciales, mais aussi de faire venir des habitants et des activités dans les étages, c'est là que les choses sont importantes, afin d'accroître la fréquentation du centre-ville et de réduire, pour les commerçants qui sont en rez-de-chaussée, le poids des charges, qui explique aussi évidemment la vacance. Pour ce faire, nous proposons de nous adosser à la ville de Nancy, qui crée une société anonyme d'économie mixte dans le cadre d'un partenariat avec différentes actionnaires. La société sera administrée par un conseil d'administration avec 15 sièges, dont 8 pour le collège public. Un pour notre métropole. Vous avez le pacte d'actionnaires qui est indiqué dans la délibération avec un capital initial de 5 millions 10 000 euros.
Très bien. Alors d'abord, voter sur le principe, monsieur maire adjoint de Vendeuvre.
Juste une question. Donc ce dispositif est pour le moment Nancy associé à la métropole. D'autres villes ont également des petits centres avec des magasins parfois en détresse. Est-ce qu'il est possible d'ouvrir ce dispositif à d'autres villes si elles le souhaitent de l'agglomération ?
Il faut peut-être déjà voir comment ça marche, hein, parce que c'est assez compliqué. Hein. Monsieur, je vous propose que Pierre Boileau nous représente à l'Assemblée générale et au Conseil d'administration et qu'il nous rende compte régulièrement, ce dont il ne manquera pas de faire, pour nous dire comment ça marche, si ça marche, comment ça marche, et comment, par, je dirais, cooptation progressive, il est peut-être possible de trouver des solutions qui pourraient s'adapter au-delà de la ville de Nancy, qui met beaucoup d'argent dans cette affaire. Hein, c'est aussi son choix et sa responsabilité. Mais j'ai bien entendu votre quête au bon sens positif du terme.
Dupliquer si ça marche.
Pas d'opposition, d'abstention, comme me dit Pierre Boileau, il faudra dupliquer si ça marche. Alors, société publique locale, Grand Nancy Habitat, rapport d'activité.
Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, un rapport d'activité notamment sur les dispositifs que nous connaissons bien aujourd'hui et dont beaucoup de communes se prévalent. Le programme d'intérêt général améliorer l'habitat dans le Grand Nancy avec un résultat sur l'année 17 de 390 logements accompagnés, 330 pour les propriétaires occupants, 60 pour les propriétaires bailleurs. Pour 2 252 000 subventions accordées, un effet levier de 4,8 millions de travaux réalisés. C'est extrêmement important dans un contexte économique qui permet de donner du travail à des entreprises locales. Et puis, c'est 212 logements subventionnés, 64% de l'objectif. Sur le dispositif coproactif, extrêmement important, vous le savez, dans le cadre des copropriétés dégradées, nous poursuivons la démarche avec 10 copropriétés signataires de la charte et puis du travail dans ce cadre-là autour de la copropriété Foch et puis sur le Corail également à La Neuville et à Charville-sous-Bois, une opération programmée d'amélioration de l'habitat sur une copropriété extrêmement importante et très dégradée. Actuellement, nous avons également 2 copropriétés à Vendeuvre, à Maxéville, sur lesquelles nous attendons le vote de devis. Donc on voit un dispositif qui est beaucoup exploité aujourd'hui par les copropriétaires, les syndics, et sur lesquels il est nécessaire de continuer, bien sûr, à faire eh bien une promotion, puisque, je le rappelle, il est gratuit pour les copropriétés qui l'utilisent. Sur l'étude NPNRU, vous savez que conformément au contrat in-house, l'objectif de réaliser un diagnostic multicritère sur les territoires NPNRU, nous avons 3 quartiers éligibles, avec 10 copropriétés sur l'Axe Sous-Province, 4 sur le plateau de Haie-Maxéville, 10 sur le plateau de Haie-Champ-le-Bœuf et 48 sur Haussonville-Nation. ARC à la corde de la SPL, le contrôle de la décence des logements dans le cadre des demandes FSL sur la métropole. Nous avons en charge d'assurer le suivi, l'animation du dispositif et puis d'éditer, d'actualiser les référentiels de vérification de la décence des logements. On parlait de bien-être et de santé, on parlait de logement. Il y a aujourd'hui encore trop de logements indécents sur notre métropole et il est nécessaire pour assurer cette santé et ce bien-être et bien de lutter contre cette indécence et de recueillir auprès des propriétaires, quand ils sont bailleurs, et bien les diagnostics réglementaires, de les accompagner sur les travaux nécessaires à réaliser et puis de faire en sorte que eh bien, nous ayons, conformément à la réglementation, mais également à la dignité, la possibilité d'avancer sur cela. Les campagnes de ravalement, elles sont extrêmement importantes. Vous en avez un certain nombre d'exemples dans la délibération. On voit à quel point ça permet vraiment de permettre à nos communes de donner un nouveau visage, un visage plus agréable, plus accueillant. Et c'est aussi, bien sûr, une action extrêmement positive et plébiscitée. Quartier pavillonnaire test à Fléville devant Nancy, nous avançons également par rapport à la mise en place d'une démarche collective de rénovation à l'initiative des propriétaires, en lien extrêmement étroit avec la commune et ses services, et faire en sorte évidemment que l'Orée du Bois soit vecteur d'une amélioration. Je ne fais pas la suite. Merci.
Voilà. D'abord, moi je dois dire que c'est une belle trouvaille, cette société publique locale de l'habitat, que ça fonctionne bien, et je voudrais saluer la petite équipe qui anime. Et si j'ai interrompu, c'est parce que la litanie, je dirais, fragilise le regard qu'on peut avoir sur la structure, et je voudrais remercier et les administrateurs et cette petite équipe. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Allez, Valérie, accélérons.
Oui, ben, c'est l'accès sur la propriété, des agréments dans le cadre du prêt location-accession.
Très bien. Ça, c'est la 28. En 29, garantie d'emprunt en faveur du logement HLM, Banque Crédit Foncier de France.
Voilà, pour 215 logements PLS au Placieux.
Pas de problème. Adopté. Garantie d'emprunt en faveur du logement HLM, Banque Caisse des dépôts.
Alors là, vous avez toute une litanie que je vous laisse lire, sinon ça va être trop long.
Non, les litanies, j'aime pas, moi.
Oui, voilà. Donc, c'est des garanties d'emprunt, Banque CDC.
Très bien. Même vote de l'Assemblée, adopté. Sixième PLHD, garantie d'emprunt, réaménagement de prêt de logis Est à la banque CDC.
31 logements HLM, Grand Cœur, Nancy Grand Cœur.
Parfait. Pas d'opposition, adopté. Madame Debord, rapport annuel des délégations de services publics, distribution publique d'énergie électrique et de gaz.
Mais vous m'en avez raté plein, là, Monsieur le Président.
Laquelle?
Non.
On est à la 32.
32. J'ai pas le...
Bon. Avançons.
L'OMH, le recteur CERN, etc. Enfin bon, c'est... on va considérer que c'est acquis.
Oh là là.
Alors, donc, sur la communication sur le rapport annuel 2017 des délégataires de services publics, pour l'année 2017, les principales données de la concession, vous les avez résumées dans la délibération. C'est une délibération d'avril 2011. les données consommateurs, nous avons un nombre d'abonnés qui s'élève à 162 830 clients en sous-tirage, avec une augmentation de plus de 2000, hein, donc net, et 10 597 clients qui bénéficient du tarif de première nécessité. C'est aussi important, ça veut dire qu'on a une baisse de ces clients par rapport à 2016, 11%. On a encore 68% des tarifs qui sont des clients pardon qui sont tarifs réglementés de vente et 32% qui se fournissent sur des offres de marché. Les données de consommation, vous les avez sur la concession, elles ont augmenté de 1% par rapport à l'année 2016. La production, 487 clients sont en injection, soit une progression de 5%. Les données réseau, vous les avez également. Pour information, 142 852 compteurs communicants Linky ont été posés sur les 20 communes fin 2017. La concession de gaz a été confiée à GRDF par délibération de juin 2003 pour 30 ans. Et les données consommateurs sont également en augmentation depuis 2016. Voilà, Monsieur le Président, en quelques mots, cette restitution.
Merci. Il n'y a pas de vote sur cette assemblée. Donc je passe à la délibération suivante. Michel Canda, clôture de la ZAC Haute-Malgrange à Vendeuvre.
Ah ben, comme ça a été vite jusque-là, je vais pouvoir prendre mon temps.
Non. Ça, c'est... ne comptez pas sur moi. Vous avez déjà perdu le temps d'une délibération, mon cher collègue.
Donc, concernant la clôture de la ZAC Haute-Malgrange à Vendeuve, dans le cadre de la clôture de cette ZAC de la Haute-Malgrange, Solorem a transmis le 8 juin 2018 le bilan définitif de la concession d'aménagement correspondant maintenu à 3 123 066 euros et 77 centimes. Pour être précis, une demande d'émission par la Métropole du Grand Nancy d'un titre de recette correspondant au solde de trésorerie de l'opération établie à 200 645 euros et 45 centimes. Voilà.
Très bien.
Moi, j'ai un peu plus.
Les élus de Vendeuve, pas de problème, adopté. Territoire à enjeu, Rive de Meurthe, approbation des notes de conjoncture 2017 des axes Stanislas Meurthe et Austrasie à Nancy.
Tiens, on a la pression ici, c'est incroyable. Ah donc, la Solorem aujourd'hui présente aujourd'hui les notes de conjoncture 2017 de la ZAC Stanislas Meurthe et Austrasie à Nancy. Concernant la ZAC Stanislas Meurthe, on peut retenir que sa commercialisation se finalise avec la réalisation des derniers programmes. Les derniers îlots situés en face du boulevard de la Motte, le dernier îlot situé le long de l'avenue du 20e Corps. Au niveau des aménagements d'espaces publics demeurant à réaliser dans les prochains mois, ils sont localisés aux abords des terrains en cours de construction. Enfin, Adim Est n'est pas parvenu à commercialiser la deuxième partie du programme de bureau Skyline. Le promoteur n'a pas souhaité s'engager dans un nouveau programme. L'îlot concerné est donc le dernier îlot de la concession restant à commercialiser. Concernant la ZAC Austrasie, en 2017, l'essentiel des efforts d'aménagement d'espaces publics et de commercialisation s'est portée sur le secteur Mediapark Technopole Renaissance avec la poursuite des aménagements des rives de la Méchelle, ainsi l'aménagement de l'esplanade en continuité de la rive du plan d'eau permet de dégager l'emprise nécessaire à l'accueil du bâtiment Totem Laurentech, de réserver un lot pour le développement éventuel d'installations devant le pôle nautique et enfin de gérer une bonne interface avec le projet de mutation des terrains initialement cédés pour l'entreprise Bialek. À proximité, les réflexions sur deux bâtiments de l'octroi de la petite halle ont conclu à la décision de la ville de Nancy de conserver la propriété de ces espaces et d'engager leur réhabilitation dans un projet de pépinière culturelle et créative. Cette réalisation ne sera pas mise en œuvre dans le cadre de la présente concession. Le développement du secteur situé sur l'autre rive, boulevard d'Austrasie, se poursuit avec les exigences d'une composition urbaine homogène, concernant le CCAS de la ville de Nancy, dont la réalisation de l'EHPAD, notre maison, s'est achevée en 2018. Sur le programme de Next City, le logement, l'ancien dépôt des corps des rapides de Lorraine, a débuté en 2018. Le cabinet d'expertise BAT et associés, dont le programme de bureau sur l'ancienne marbrerie Cochinère, a également commencé en 2018.
Très bien.
En face, je termine. Sur l'espace compris entre le quai Florentin et le boulevard de la Motte, la commercialisation des îlots à vocation résidentielle en transition avec la forme urbaine existante des rues Guinée, d'Algérie et du Progrès s'est poursuivie.
Merci. Je vous indique quand même qu'à travers tous ces rapports qui peuvent paraître superficiels et autres, il y a un immense travail sur le terrain dans la diversité des mécanismes et derrière ça, ça représente un effort d'innovation, un effort de construction et de revitalisation sur ce concept que nous avons souvent développé de reconstruction de la ville sur elle-même. Merci Michel. L'affaire suivante.
Donc, l'affaire suivante, c'est territoire en jeu, rive de Meurthe, Zakos, Razi, Nancy, rétrocession par Solorem de l'esplanade Cueno. Suite à l'achèvement de l'esplanade Cueno, située dans la Zakos, Razi à Nancy, une procédure de rétrocession des équipements à la métropole et à la ville de Nancy s'est engagée. L'esplanade comprend des voiries et quatre salons dont la répartition entre le Grand Nancy et la ville de Nancy varie en fonction de leurs compétences. Pour les voiries et les salons numéro 1 et 4, Solorem cède au Grand Nancy les ouvrages réalisés d'une surface de 4 700 m² pour un montant d'un 1 212 957 € TTC. Le montant correspond aux participations du Grand Nancy prévues pour ces ouvrages et versées dans le cadre de la concession de la ZAC métropolitaine Austrasie. Pour les voiries et les salons 2 et 3, l'ensemble s'étend sur 8 555 m² et une partie des ouvrages a été réalisée sur les parcelles appartenant à la métropole d'une contenance totale de 3 950 m². Le Grand Nancy doit donc céder à la ville de Nancy ses emprises. Cette session sera réalisée à titre gratuit. Pour rappel, la ville de Nancy participe à la réalisation des ouvrages correspondants dans le cadre de la ZAC métropolitaine Austrasie, et ce pour un montant d'1 819 436 € TTC.
Parfait. Pas de remarques. Monsieur le maire de Nancy est content. Pas d'opposition. Adopté. Dernière délibération, Michel.
Alors, il concerne donc la ZAC Austrasie, la rétrocession par Solorem du mail de l'horloge. Suite à l'achèvement du mail de l'horloge situé dans la ZAC Austrasie, une procédure de rétrocession des équipements par Solorem à la métropole du Grand Nancy est engagée. Les acquisitions foncières, compris les travaux d'aménagement, sont valorisés par Solorem à hauteur d'1 555 444 €. Ce montant correspond aux participations du Grand Nancy prévues pour ces ouvrages et déjà versées dans le cadre de la concession de cette ZAC.
Très bien.
Par ailleurs, une partie des ouvrages a été réalisée sur des propriétés appartenant à la ville de Nancy. Ces parcelles aménagées en nature de voiries doivent également revenir à la métropole. Cette session sera réalisée par la ville de Nancy à titre gratuit.
Merci, monsieur le vice-président. Merci pour ce patient travail, Michel. Pas d'opposition, adopté. Ensuite, rapidement, le docteur Sartelet va nous parler des petites bêtes sur le plateau de Villers.
Oui, bon, ben, il s'agit d'engager la procédure d'activation de cet espace naturel sensible, bois des Fourasses, plateau de Villers. Cette procédure ne concernera que le plateau de Villers, puisque le bois des Fourasses sera concerné par la classification en forêt de protection. Il s'agit donc d'un partenariat avec le département, la ville support et la métropole, comme dans tous les espaces, autres espaces sensibles de la métropole. C'est basé sur trois objectifs partagés avec le département, c'est-à-dire la gestion conjointe du site ENS, conformément à un plan de gestion et d'aménagement qui sera élaboré par la métropole et validé par les partenaires, la maîtrise foncière communale progressive des terrains de l'ENS concernés en pratique par des mesures de gestion écologique et l'ouverture du site au public dans le respect de la sensibilité des milieux naturels. Un comité de pilotage sera donc créé avec des représentants de la métropole, de la ville, de Villers-Nancy et du département et éventuellement d'autres partenaires comme des associations il y a eu des concertations établies par avance et nous intervenons après la décision de la ville de Villers-Nancy.
Parfait. Voilà. Monsieur le maire de Villers, ça va, tout va bien?
Il n'est pas là.
Oh, c'était bizarre, ça. Pas d'opposition, adopté. Alors, monsieur le juge-t-il, rapport annuel 2017 de la fourrière automobile.
Oui, monsieur le président, chers collègues, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la fourrière sans jamais oser le demander, remarquez, vous pouvez toujours passer aux travaux pratiques et laisser votre véhicule en vrac, et comme ça vous aurez une expérience pratique, pour vous dire que ce qui a changé depuis le 1er novembre 2017, c'est que ce service communautaire qui avait débuté, je crois que c'est en 1999 que la fourrière municipale de Nancy est devenue communautaire. Eh bien, ce service qui est exploité en régie fonctionne maintenant sous l'œil vigilant de la direction de la sécurité et de la prévention des risques. Ce qui a été modifié dans le fonctionnement par rapport aux années antérieures, c'est le règlement. Les entrées se font toujours un peu comme aux urgences 24 heures sur 24. Les sorties qui pouvaient se faire également 24 heures sur 24, s'ils ne se faisaient même pas aux urgences, bon, maintenant c'est de 7 heures à 20 heures du lundi au vendredi et les samedis de 8 heures à 13h et de 14h à 19h, heure auxquelles les automobilistes contrevenants ou distraits peuvent récupérer leur véhicule. Et on a néanmoins prévu que pour les véhicules qui sont enlevés à l'occasion des manifestations culturelles, sportives ou autres, on puisse élargir bien sûr les horaires de récupération de ces véhicules, mais ponctuellement. 2017, ce sont 2400 décisions de placement en fourrière, ce qui représente un chiffre relativement stable. Il doit être en augmentation de l'ordre de 4% par rapport à l'année précédente. Et il y en a 1813 qui concernent le territoire de la seule commune de Nancy, c'est-à-dire ça représente les trois quarts des enlèvements. Pourquoi ? Parce que c'est la plus grosse commune, c'est là qu'il y a le plus de voitures, ce sont les phénomènes de centralité, les gens viennent se garer et pas toujours correctement. Exactement à Nancy, et à Nancy, la politique des manifestations festives fait qu'on est amené régulièrement à panoter pour préserver un certain nombre de zones, et ce d'autant plus, avec d'autant plus de rigueur maintenant que les risques terroristes étant présents, eh bien ce qu'on pouvait encore laisser de temps en temps, une ou deux voitures ici ou là, elles sont maintenant systématiquement enlevées. Il y a en effet un peu plus d'un tiers, 34,5% des enlèvements qui concernent ces infractions à des arrêtés municipaux, un quart, 25,7% pour les véhicules ventouses, c'est-à-dire ceux qui restent en stationnement abusif de plus de 16 jours, et 13% pour les stationnements devant les entrées carrossables. Alors tout ça représente un chiffre d'affaires, enfin en tout cas des recettes pour 2017 de 394 905 euros, un chiffre en baisse sensible par rapport à 2007 qui était de 497 837 euros. Pourquoi ? C'est parce que là aussi, la direction de la sécurité et de la prévention des risques a remis un peu d'ordre dans les comptes. Il y avait dans le chiffre de 2016 près de 75 000 euros qui concernaient les reprises des épaves par les professionnels qui étaient comptabilisés. Et puis il y avait des titres de recouvrement pour auprès des instances judiciaires, puisque la fourrière sert également à l'institution judiciaire pour y déposer les scellés de voitures, de motos, de quads. Le chiffre de 2016 comprenait les titres de recouvrement auprès des instances judiciaires sur plusieurs années. On les a individualisés maintenant comme cela aurait dû être le cas auparavant, année par année, et on a 27 000 euros uniquement au titre de l'exercice 2017. Voilà pour la théorie, monsieur le président. Pour la pratique, je vous laisse le soin, vous et tous mes collègues, d'expérimenter éventuellement l'excellence du système tel qu'il fonctionne.
Très bien. À une condition, mon cher collègue, c'est que vous fassiez vous-même l'accueil et la visite.
Mais oui, mais bien entendu, et je percevrai également les sommes qui sont dues et qui s'élèvent pour un véhicule léger, je crois, à 116,80 €, si mes souvenirs sont bons. fonds, et plus vous attendrez, plus je vous facturerai avec une joie non dissimulée la journée et la nuitée de permanence de votre véhicule ou de l'un de vos nombreux véhicules au sein de cette fourrière communautaire du Grand Nancy métropolitaine. Voilà.
Monsieur le conseiller délégué, je vous trouve dans une forme superbe et je peux vous dire que ça nous fait tous plaisir.
C'est parce que vous m'avez économisé ce matin, monsieur le président, à la conférence des maires.
Alors, il n'y a pas de vote, hein, rassurez-vous. Alors, madame Debord, rapidement, délégation pour les services publics de chauffage urbain.
Alors rapidement, c'est vraiment très bien. Et c'est d'un point de vue financier un résultat global de 2017 de l'activité qui est intéressant. Et vous pouvez tout consulter auprès de la direction des assemblées.
Parfait. Il n'y a pas de vote. Alors, Serge Bouly, écomobilier, contrat territorial pour le mobilier usagé.
Oui, j'ai bien compris qu'avec Écomobilier, il ne fallait pas trop que je meuble. Donc, cet organisme est spécialisé dans les déchets d'éléments d'ameublement. Son agrément a été reconduit pour la période 2018-2023, mais le nouveau contrat type est encore discuté. Il ne s'appliquera donc que sur la période 2019-2023. Et un contrat provisoire doit donc être établi pour 2018 et il concerne tout ce qui vous est mis dans l'exposé des motifs. Voilà, Monsieur le Président.
Merci. Pas de remarques, pas d'opposition. Adopté. Monsieur Kling, station d'épuration, conséquence de l'implantation de la voie de la Meurthe sur les installations de méthanisation et le fonctionnement de la station d'épuration, indemnisation de l'exploitant.
Merci, Monsieur le Président. Suite aux incidents qui ont eu lieu sur un digesteur il y a maintenant plusieurs années, un protocole d'accord avait été trouvé transactionnel avec l'exploitant Veolia. L'arrêt de ces digesteurs a des conséquences sur le fonctionnement de la STEP. Donc il convient d'indemniser, comme il est prévu contractuellement, la société, l'exploitant Veolia, au titre de l'année 2017 à hauteur de 192 856,57 €.
Parfait. Merci de suivre ce dossier qui est important. Hein. Pas d'opposition. Adopté. À mon rapport, convention de partenariat avec le Centre européen universitaire. Je suis content de voir qu'on renouvelle un peu les relations avec le Centre européen universitaire et que nous allons nous appuyer sur cet organisme de grande qualité. Et le faire dans une année où on commence à parler enfin un peu plus d'Europe et de perspectives électorales européennes, je pense que c'est une bonne manière de rendre à ce centre européen universitaire dont nous portons la responsabilité de la création. Monsieur Berlemont est d'accord. Pas d'opposition. Adopté. Versement d'une subvention exceptionnelle à Cités Unies France en soutien aux victimes des séismes et du tsunami survenu en Indonésie. Je crois que c'est une proposition à hauteur de 10 000 €, Cités Unies France. Je ne pensais pas qu'on aurait les mêmes problèmes pour nos propres ressortissants dans l'Aude. Pas d'opposition. Adopté. Désignation. Donnez-moi la feuille. Eh bien alors, monsieur. Alors, désignation de représentant au conseil de surveillance du centre psychothérapeutique de Nancy. C'est notre collègue Chantal Carraro qui y siégeait. Elle n'a plus la possibilité, pour des raisons d'emploi du temps, d'y participer. Donc, je vous propose de m'autoriser à faire une incursion au centre psychothérapeutique de l'Axou, virgule, comme administrateur. Pas d'opposition. Ensuite, au conseil de gestion de la faculté des sciences du sport, l'UFR SAPS, c'est Monsieur Pironnet, non ? Attendez voir, j'y comprends rien dans vos trucs là. C'est Monsieur Pinsalfini, oui, le sportif. T'es toujours d'accord ? Et Monsieur Breuil. Et au conseil d'administration de 3F Grand Est. Quelqu'un sait ce que c'est? C'est un bailleur social de la SNCF. On y a envoyé notre ami Jean-Pierre. Pierre Hurpeau. Pas de remarques ?
Non.
Pas d'opposition ? Adopté. Madame Piccoli, action sociale partenariale avec OMH pour la mise à disposition de logements d'urgence.
Effectivement, il existe dans notre collectivité comme ailleurs des agents qui sont dans des situations sociales qui nous interrogent sur des modalités d'accompagnement, en particulier en matière de logements de secours. L'OMH possède des logements d'urgence, donc nous vous proposons une convention cadre pour les principes de cet hébergement d'urgence. Cette démarche est construite en lien avec le comité d'action sociale et en collaboration avec l'assistante sociale.
Merci. Pas de remarques, pas d'opposition. Adopté. Alors, organisation des astreintes.
Oui, il n'y a pas de grand changement par rapport aux années précédentes, si ce n'est de vous rappeler les utilités des astreintes. C'est une nécessité pour un service public continu et aussi une nécessité pour des missions d'intervention d'urgence, de sécurité et de protection de domaine public. Je vous rappelle quand même la définition d'une astreinte. C'est la période pendant laquelle un agent n'est pas à dispo permanente et immédiate, mais doit être à proximité pour pouvoir intervenir rapidement. C'est un travail effectif qui comprend l'intervention et le trajet. Dans le cadre réglementaire, il existe deux filières, en particulier qui n'ont pas les mêmes modalités de repos compensateur ni d'indemnisation. Pour la filière technique, il existe les astreintes d'exploitation qui sont sur les actions préventives ou curatives, l'astreinte de sécurité qui sont des actions d'événements soudains ou imprévus, et des astreintes de décision pour le personnel d'encadrement pour leur concours, pour le concours des services en dehors des heures normales.
Merci de cette belle délibération. Ça montre aussi l'engagement et la diversité des missions que nous sommes appelés à travers nos collaborateurs à remplir. En tout cas, c'est aussi une forme d'expérience et forte pour l'intérêt du service public métropolitain. Pas d'opposition ? Pas d'abstention adoptée. Adaptation du tableau des effectifs.
Alors, déjà, il y a eu une création, un poste de technicien territorial. Ensuite, des transformations au budget général 2 à la suite d'un concours. Au budget de l'eau, un poste à la suite aussi d'un concours. Et au budget de l'assainissement, un poste, toujours suite à la réussite d'un concours. De plus, au budget de l'assainissement, il y a le remplacement d'un agent parti en retraite.
Merci. Pas de remarques, pas d'opposition adoptée. Jean-Pierre Dessin, communication sans vote de la délégation de services publics du réseau métropolitain de Télécom, rapport d'activité 2017.
Mais président, chers collègues, tout va bien. Les chiffres sont dans la délibération. Une petite hausse des redevances et les chiffres suivent les prévisions de la délégation.
Merci. Il n'y a pas de vote. Donc, au CPIE, convention de mise à disposition gratuite de locaux situés rue Pierre-Paul de Moyen à Champenoux.
Oui, il s'agit ici, chers collègues, du renouvellement d'une convention qui avait été signée il y a une quinzaine d'années, en 2003, de prêt de locaux au CPIE que nous avons rénovés en 2003 et pour lesquels le CPIE avait participé à hauteur d'un petit peu moins de 30% à sa rénovation. Il est proposé de resigner une convention avec, bien sûr, une possibilité de résilier à tout moment pour motif d'intérêt général avec préavis de 6 mois, donc une valorisation de cette location de 12 000 euros par an qu'il est proposé sur 12 ans.
Merci. Pas de remarques. Je vous propose le docteur Sartelet pour nous représenter, qui ne participera pas au vote. Pas de remarques, pas d'opposition. Adopté. Alors, il y a encore 2 délibérations. Une de Madame Brunner et, comme notre collègue Éric Pinsalfini était absent tout à l'heure, nous n'oublions pas qu'il nous doit un rapport. Madame Brunner, rapidement.
Oui, Monsieur le Président, eh bien, il s'agit d'une convention de mutualisation informatique avec les villes de Demartemont, les villes de Vendancy et Écourt. Donc, ces 3 nouvelles villes ont fait le choix de nous rejoindre et d'intégrer le service commun de la DSI. Donc, par conséquent, nous aurons désormais 24 villes et établissements mutualisés sur l'ensemble du Grand Nancy.
Je voudrais saluer, certes, l'engagement, certes, virgule tardif, de nos collègues de Dommartemont, de Fléville et d'Écourt, mais comme on dit en religion, la chambre est vaste et on attend les brebis qui s'étaient un petit peu attardées. Pas d'opposition. Adopté. Alors, Éric Passalfini, quel numéro de délibération ? Le 18.
Bien, simplement.
Convention de mise à disposition du Palais des Sports Jean Veil à la SASP SLUC Nancy Basket pour l'organisation d'événements. Oui, page 117.
Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, très rapidement, il vous est proposé de retenir le SLUC qui était le seul candidat à répondre sur l'utilisation de l'équipement qui est le Palais des Sports de Gentilly et à répondre sur une convention qui porte sur deux types de comment dirais-je, de locations, à la fois. De réserver les salons VIP au nombre de 20 événements et de réserver l'ensemble de l'équipement au nombre de 3. Et en compensation, le SLUC nous versera 5 000 euros TTC pour l'ensemble de l'équipement et 400 euros par événement sur les salons VIP.
Merci. Pas de remarques. Ça tourne, le SLUC, ça va ? Bon. Parfait. Ben, écoutez, pas d'opposition. Je voudrais vous remercier de la célérité avec laquelle vous avez accordé votre confiance, la profondeur des débats, les perspectives, y compris philosophiques, et la bonne ambiance et la bonne humeur quasi générale.